Vous êtes sur RTL.
Yves Calvi est déjà dans les starting blocks. Il a mis une chemise bleue aujourd'hui. Voilà.
Merci.
Le ton est donné. Bonjour Yves.
Bonne journée à vous. La grande aventure, en effet, commence ce soir à 21h. Vous pourrez la suivre sur RTL et sur M6. La France affronte l'Allemagne pour son premier match de l'Euro. Nous vous proposons ce matin des rendez-vous, je pèse mes mots, passionnants, puisque vous pourrez entendre sur RTL Kylian Mbappé au micro de Philippe Sansfourche à 8h20. Seule la victoire compte, nous dira la star tricolore. Une demi-heure avant, c'est le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui prendra la parole. Il aborde toutes les questions du foot français et nous parle ainsi de nos Bleus. Je cite, sans doute une des meilleures équipes depuis longtemps. Rendez-vous pris au micro de Benjamin Sportouche dès 7h40. Notre consultant Robert Pires nous donnera les clés du match dès 7h15. Et puis cerise sur le gâteau, François Langlais, dans l'Anglais Co, reviendra sur le match France-Allemagne, le match économique de la zone euro. Je ne sais pas si elles sont passionnées de foot, je pense même que ce n'est peut-être pas forcément le cas, mais ce sont Josiane Balasco et Mathilde Seigné qui couronneront cette matinale dès 9h dans Laissez-vous tenter à l'occasion de la sortie de leur film Un tour chez ma fille. Il sort mercredi et nous les accueillerons avec Stéphane Boutsock. Nous sommes le mardi 15 juin 2021. Vous écoutez RTL. Très bonne journée à tous. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Munich, l'Allianz Arena, 21h, c'est donc le grand bain pour nos Bleus.
Avec en face des Allemands tout aussi déterminés, un choc à suivre sur RTL et sur M6. La fête ce soir, permise officiellement jusqu'à 23h. Le couvre-feu reste en vigueur, même si dans les faits, vous allez l'entendre, le gouvernement sera très indulgent. À suivre également la vaccination des ados qui démarre ce matin entre inquiétude et empressement. Les 12-17 ans aussi se posent des questions. Bastia, l'ex-compagnon de Julie Douy, battu aujourd'hui à la barre, soupçonné d'avoir assassiné la jeune femme qui vivait enfermée sous emprise. Vous entendrez le témoignage glaçant de ses proches. Et puis nous reviendrons sur cette vague de chaleur, déjà 25 degrés ce matin à Perpignan, plus de 34 attendus cet après-midi par endroit.
La politique, Olivier Best.
Oui, qui ira voter dimanche. Allons-nous vers une abstention record? Qu'est-ce que ça raconte de notre vie politique? On répond à tout ça.
Vous nous expliquez ça dès la fin du journal.
RTL Matin.
Et vous, qu'allez-vous faire ce soir? À l'ancienne, bière, pizza entre amis, ça marche toujours. Un match en terrasse sur écran géant, disons que les températures s'y prêtent. Quoi qu'il en soit, la fête sera permise, mais limitée. 23 heures, pas plus tard. Le couvre-feu reste en vigueur, aucune dérogation. Même si le ministère de l'Intérieur, sans doute conscient du caractère exceptionnel de cette soirée, demande aux policiers de faire preuve d'indulgence. La consigne a été passée hier soir, Guillaume Chiez.
Oui, Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de mansuétude. En clair, toute personne qui rentrera chez elle après 23 heures ne risquera pas de recevoir de contravention. Pour autant, policiers et gendarmes distingueront chaque situation et tout abus sera sanctionné. Pas question de prolonger la soirée après la rencontre. Vous pourrez donc aller voir le match en entier sans vous soucier du temps qu'il reste avant le début du couvre-feu, que ce soit dans une fan zone, en terrasse, dans un bar ou chez des amis. Les règles de distanciation sociale, en revanche, restent les mêmes. Les fan zones ne pourront pas accueillir plus de 5000 personnes. Les spectateurs seront assis et devront laisser un siège libre entre deux groupes qui vivent ensemble. Les bars, eux, pourront retransmettre le match en respectant la règle de 6 personnes maximum par table.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
L'euro sur RTL.
Et l'euro, c'est plus que jamais sur RTL dès 20h45 ce soir et jusqu'à minuit avec l'ensemble de notre service des sports.
Et nos envoyés spéciaux à Munich, eux, Julien Fautra, tout près de l'Allianz Arena où les Bleus se sont entraînés hier soir pour la première fois. Julien, en attendant les supporters français qui arriveront en bus dans la matinée, vous avez interrogé nos adversaires du jour que vous avez trouvé particulièrement confiants.
Oui, sous l'immense église gothique de Marienplatz, baignée de soleil, aux terrasses à nouveau prises d'assaut, les habitants ont cette conviction que les joueurs allemands préparent en douce un mauvais tour aux Français. Une victoire pronostique les uns, au pire un match nul, 2-2. Mais l'assurance, la confiance et en écho les mots d'Antonio Rüdiger, le défenseur allemand, il faut être sale et pas toujours gentil.
On joue comme un collectif comparé aux Français qui ont Giroud et Mbappé. Les Français ont des joueurs qui sont plus forts que les Allemands, mais comme collectif, on peut gagner.
Les habitants, certains de la supériorité de leur football et de leur méthode. Plusieurs joueurs français se sont épanouis ici au Bayern. Ribéry, Lizarazu, Sagnol et aujourd'hui 4 des sélectionnés qui reviennent dans leur stade.
Munich convient parfaitement à un joueur de foot. C'est une grande ville et je pense que tout le monde s'y épanouit.
À moins finalement, et ce serait une chance pour la France, que Munich ait créé son propre bourreau.
Julien Fautra, envoyé spécial à Munich pour RTL.
Et je vous rappelle ces trois rendez-vous dans votre matinale. À 7h15, Robert Pires, notre consultant sur les enjeux du match. À 7h45, Noël Le Graët, le patron de la Fédération au micro de Benjamin Sportouche. Et les confidences exceptionnelles de Kylian Mbappé pour M6 et RTL à 8h20 avec Philippe Sanfourche.
Et je vous donne moi les derniers résultats. Hier soir dans le groupe E, l'Espagne et la Suède ont fait match nul 0 partout. Un peu plus tôt, la Slovaquie a battu la Pologne 2-1. Et dans le groupe D, c'est la République tchèque qui s'est imposée face à l'Écosse 2-0.
RTL 7h05, Nicolas Sarkozy est attendu aujourd'hui au procès Big Malion.
L'ancien chef de l'État témoignera cet après-midi, contrairement à ses co-prévenus. Il n'est pas mis en cause pour le système de fausses factures ayant permis de financer sa campagne en 2012, mais pour avoir, lui, laissé filer le plafond des dépenses. Autre procès, celui de l'assassin présumé de Julie Dwyba Bastia. Depuis jeudi dernier, Bruno Garcia est jugé pour avoir tué son ex-compagne qu'il battait régulièrement. Il sera interrogé tout à l'heure. Hier, des psychiatres et des proches de la victime ont défilé à la barre. Tous, toutes venus décrire un homme dangereux et une jeune femme prise en otage. Stéphanie était l'une des amies de Julie.
Ben, il était sans arrêt derrière elle, partout où elle allait. Il était tout le temps derrière elle. On sentait bien quand même qu'on n'avait pas affaire à quelqu'un de bien. On savait bien que c'est quelqu'un de mauvais, mais de là à se dire qu'il va tuer la mère de ses enfants, je crois qu'il faut être différent quelque part dans le cerveau pour pouvoir envisager une telle chose. On lui en veut beaucoup et je pense que c'est quelqu'un vraiment de mauvais. Et j'irais même jusqu'à vous dire que moi-même j'ai peur de lui, des individus qui l'entourent. Il faut qu'il reste enfermé longtemps. Très très longtemps.
Un propos recueilli par Anne Le Hénaff qui suit ce procès à Bastia pour RTL.
Les adolescents à leur tour vont pouvoir donc se faire vacciner. Le Pfizer est disponible dès ce matin pour les 12-17 ans. On vous explique tout ça dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est la nouveauté de ce mardi, la vaccination est désormais ouverte aux adolescents qui le souhaitent.
L'accord des deux parents est nécessaire et la présence d'au moins un des deux lors de l'injection, mais c'est bien le consentement de l'adolescent qui prime. Et tous ne sont pas forcément convaincus. Et oui, comme les grands, les plus jeunes ont aussi leurs arguments, Valentin Boisset.
Oui, et des débats dans les familles, il y en a beaucoup en ce moment. Mélanie a 13 ans, son père Abdoulaye sera intransigeant sur la vaccination.
C'est moi qui décide, c'est pas...
Tu veux pas toi ?
Non.
Pourquoi ?
Je suis pas confiant sur le vaccin. On ne sait pas s'il est vraiment sûr le vaccin.
Voilà, va le faire.
La vaccination sera basée sur le volontariat. Alors certains adolescents ne se sentent pas vraiment concernés, comme Mathis et Nicolas.
J'ai pas besoin. Tant que c'est pas obligé, je pense qu'ils vont pas nous dire d'y aller.
Hein. Pas tout de suite. Je le ferai quand j'en aurai besoin. Si un jour je vais aller à une fête ou à un événement, je le ferai.
D'autres ne se considèrent pas comme la priorité, mais la Haute Autorité de Santé parle d'une stratégie, le cocooning, vacciner les plus jeunes pour protéger aussi l'entourage, comme les grands-parents à l'approche des grandes vacances. Martha, une maman, fera donc vacciner son fils.
Ça va se passer comment ? Vous allez lui dire d'aller se faire vacciner ?
Oui, je vais lui dire. Ça va être imposé après. Si on veut faire des sorties ou aller dans des places comme Disney, Euro Disney, trucs comme ça, ça va forcément être obligatoire à un moment donné.
Pour le moment, seul le vaccin Pfizer sera proposé aux 12-18 ans.
Reportage de Valentin Boisset. Un an quasiment après leur séparation, ils se retrouveront ce midi à l'Elysée. Emmanuel Macron remettra les insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. Un titre automatiquement dû après 2 ans passés à la tête du gouvernement. La cérémonie avait dû être décalée pour cause d'épidémie.
On attend quand même les extraits des discours.
L'actualité à l'étranger avec cette inquiétude en Angleterre face à la multiplication des cas dus au variant Delta, celui venu d'Inde. Boris Johnson a décidé de retarder le déconfinement et de maintenir pour l'instant les dernières restrictions qui pèsent encore sur le pays.
Nous étions face à un choix difficile. Nous pourrions continuer avec la quatrième phase de déconfinement le 21 juin. Mais il y a une vraie possibilité que le virus soit plus rapide que la vaccination, ce qui pourrait provoquer la mort de milliers de personnes. Je crois qu'il est raisonnable de patienter encore un peu pour pouvoir réduire le risque de transmission parmi les jeunes qui socialisent le plus. Among the groups
that mix the most. Le changement de ton des États-Unis face à la Russie. Hier, le président américain Joe Biden a promis de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de rappeler au président Poutine quelles seraient les lignes rouges à ne pas franchir. Un entretien entre les deux dirigeants est prévu demain à Genève. Et puis en Argentine, le parquet qui enquête sur la mort de Diego Maradona a entamé hier une série d'interrogatoires. 7 personnes de l'entourage médical de la star du foot soupçonnées de l'avoir abandonné à une lente agonie. L'infirmier de nuit de Maradona s'est défendu hier en affirmant avoir reçu l'ordre, je cite, de ne pas le réveiller.
On en viendrait presque à regretter la fraîcheur du mois de mai. Cette fin de printemps s'annonce étouffante. Enfin, moi, ça me convient.
Avec une vague de chaleur exceptionnelle et des températures de 25 degrés relevées ce matin par endroit, des pics à 35, peut-être même 36 localement dans le Roussillon et dans le sud-ouest cet après-midi. Écoutez ces Toulousains rencontrés hier par Patrick Hisson. Ils venaient juste de trouver refuge au bord du canal du Midi.
Mais qu'est-ce que c'est agréable. Comparé, on arrive de Toulouse, du centre-ville, et alors là, ce petit air, c'est vraiment... On y resterait. La belle vie, quoi.
Vous êtes arrivé avec un vélo parasol.
Absolument. Et maintenant, bah, j'ouvre le parasol pour mettre la table à l'ombre, parce qu'il fait sacrément chaud, et c'est important de préserver la qualité de toutes les denrées là, qu'on a mises sur la table.
Il fait chaud, mais bon, j'ai l'avantage d'avoir une piscine dans ma résidence. Mais sinon, ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. Là, surtout à Toulouse, c'est hyper sec. Heureusement qu'il y a un peu de vent.
C'est un enfer, disait cette jeune femme. L'enfer, ça va continuer, Lou Bonin.
Oui, ça va continuer encore deux jours, hein, au moins jusqu'à mercredi. Puis ensuite, changement de temps avec le retour des orages, de l'air un petit peu plus frais. Mais donc, oui, il faut tenir encore deux jours. D'autant plus que c'est un vent de sud qui domine. Et on sait que ce vent est beaucoup plus sec. Et donc, il renforce encore parfois l'impression de chaleur et d'étouffement.
Vous avez remarqué cet air satanique de Louis Bonin derrière son masque.
Un mot sur Marseille, rapidement. Pic de pollution à l'ozone aujourd'hui, alerte 2. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire qu'on a les effets du rayonnement solaire, on voit le soleil est très très présent, ouais. Avec la chaleur, transformation chimique, et du coup on a une fabrication d'ozone, et donc ces concentrations à la pollution d'ozone qu'on peut retrouver dans quelques grandes villes en France.
Et vitesse réduite de 20 km/h sur toutes les routes des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, Louis Bonin.
Les courses, elles ont donc lieu à Compiègne.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 16, le 6, le 10, le 7, le 12, hélas, la dernière minute, c'est le 10, Diction.
Et cet excellent journal vous a été proposé par Dominique Tenza sur RTL. Il est 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qui ira voter dimanche? Allons-nous vers une abstention record au régional et au départemental? C'est la question du jour.
Et oui, les derniers chiffres des sondeurs, pour tout vous dire, sont assez peu encourageants. Pour dimanche, Harris Interactive mesure une participation de 40% seulement. Ipsos n'est pas plus optimiste. Si ça ne bouge pas d'ici dimanche, ce sera pire qu'en 2015, pire qu'en 2010 et pire qu'au municipal. Sauf imprévu, un regain d'intérêt de dernière minute. Il faut donc s'attendre à une élection très peu suivie.
Alors, sauf imprévu, que voulez-vous dire? Que peut-il se passer?
Eh bien, il y a un comportement que les sondeurs ont du mal à anticiper, c'est celui des jeunes. Aux européennes, il y a 2 ans, ils avaient gonflé en toute dernière minute les chiffres. Les jeunes, quand ils se mobilisent, le font pour voter écolo ou pour contrer le Rassemblement national. Donc si la mobilisation est plus importante que prévu dimanche, vous savez dès aujourd'hui à qui elle peut profiter. A l'inverse, une mobilisation faible avantage l'ERN, dont les électeurs sont ceux qui sont le plus déterminés à voter.
Mais un point de mobilisation, ça peut vraiment tout changer?
Alors dans ces élections, oui, parce que le vote est très éparpillé entre les offres, jusqu'à 3 listes à gauche, une liste En Marche Modem, des LR, un RN. La barre des 10% pour passer le premier tour devient, en bas de tableau, très aléatoire. Prenons l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Un peu moins de 2 millions d'inscrits sur les listes électorales. Avec un taux de participation tel que ceux qui sont annoncés, si vous mobilisez 8000 électeurs de plus que votre voisin, eh bien vous gagnez 1 point, 1% de plus. Ça peut aller très vite à la hausse, comme à la baisse bien sûr. Et puis il y a une évidence qu'il faut rappeler à chaque élection. Celui qui gagne n'est pas celui qui pique des électeurs à son concurrent. Celui qui gagne est celui qui mobilise ses électeurs. C'est tout l'enjeu de dimanche.
Alors, pardonnez-moi, mais est-ce que l'on ne prédit pas à chaque fois et à chaque élection une participation inférieure aux précédentes?
Alors c'est vrai, mais malheureusement ça se vérifie. De manière presque continue maintenant, depuis 2007, l'abstention grimpe et Frédéric Dabi de l'Institut IFOP fait ce constat dans la Croix. Pour une partie de la population, explique-t-il, voter est devenu vain, n'a plus d'intérêt. C'est l'explication la plus préoccupante. À celle-là, il faut ajouter les craintes dues au virus, explication la plus facile, et une offre politique peu attrayante. C'est là que se trouve le réservoir des abstentionnistes. Dans un sondage Via Voice pour le journal Libération de ce matin, presque 7 Français sur 10 estiment que leurs intérêts ou leurs idées sont mal représentés. Nous ne sommes donc pas désintéressés par la politique, dans le fond, mais déçus, ce qui laisse un peu plus d'espoir quand même. Le renouveau de la vie politique, la promesse de 2017, reste pour l'instant un rendez-vous manqué et une promesse à tenir.
Merci beaucoup Olivier Bost. Dans un instant, notre premier rendez-vous consacré à l'équipe de France de football en cette journée tout à fait particulière. Nous serons avec notre consultant Robert Pires pour les toutes dernières indiscrétions avant la rencontre de ce soir entre les Bleus et l'équipe d'Allemagne. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h15. RTL.
L'Euro sur RTL.
Il est 7h17, nous retrouvons tout de suite notre témoin et consultant pour M6 et RTL, Robert Pires, notre ancien champion du monde aussi. Je le rappelle, bonjour cher Robert.
Oui.
Vous nous entendez, tout est clair ?
Tout est clair, je vous entends bien.
Alors c'est parfait. Robert, comment vont les Bleus à un peu plus de 12 heures de leur entrée dans la compétition face à l'Allemagne ?
Bah, écoutez, je pense qu'ils vont bien. La préparation s'est bien passée. Maintenant, elle est terminée. Place à la réalité. Oui. C'est la compétition. C'est le premier match. C'est l'Allemagne. Donc, il faudra être présent dès ce soir.
On se perd en conjecture pour savoir si c'est pas, d'une certaine façon, trop difficile d'affronter l'Allemagne. J'aurais tendance à vous dire, bah, écoutez, autant rencontrer tout de suite les meilleures équipes. Comme ça, on va savoir à quel niveau on se place. Comment vous percevez les choses, vous ?
Bah écoutez, je suis de votre avis, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez, si on répète toujours la même chose, oui. Si vous voulez aller jusqu'au bout et soulever le trophée, il faudra battre les meilleures équipes. Et je pense que il ne faut surtout pas sous-estimer l'Allemagne.
Non.
Tout simplement parce que c'est une grande équipe de football, de nation internationale qui déjà a gagné des trophées. Donc c'est une équipe qui va jouer à domicile. Ça, c'est aussi un avantage, il faut le dire, à Munich. Nous avons les arguments, nous avons les armes pour les mettre en danger.
Quel est le moral des joueurs ? La préparation s'est-elle, d'après vous, bien déroulée ? Par définition, il y a des petits signes que vous pouvez identifier, que nous ne voyons pas, dans la façon dont fonctionne un groupe, dont vous les voyez prendre la parole, dont vous voyez l'autorité de Deschamps s'installer. Très sincèrement, oui. Comment sentez-vous les choses en termes d'équipe ?
Écoutez, en termes d'équipe, je vois et je sens une équipe sereine. La préparation des deux matchs s'est bien passée. Après, il y a quelques petites frictions. Oui. On l'a vu sur certaines déclarations. Ça fait partie du jeu. Je pense que on parle en ce moment de Giroud et Mbappé, mais oui. Ils se sont vus, ils sont parlé, ils ont éclairci justement leur point de vue. Mais je crois que le plus important, et Mbappé l'a dit, c'est l'équipe de France. Et ce soir, on n'a pas le droit de se louper parce que on est partie des favoris. Donc, il faut assumer ce statut. Parfois, il est dur, il est lourd parce que la pression, elle n'est pas la même. Mais les joueurs sont des professionnels. La plupart d'eux jouent dans les plus grands clubs européens. Donc, honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet.
Alors, on va l'entendre tout à l'heure, Noël Le Graët prend la parole à 7h40 au micro de Benjamin Sportouche, et il va lui dire notamment « C'est sans doute une des meilleures équipes depuis longtemps. Je pense que ça n'est pas qu'une formule. Est-ce que vous partagez l'analyse du président de la Fédération ?»
Écoutez, oui, mais oui, parce que quand on voit les noms qui composent notre sélection, il y a pratiquement rien à dire. Aujourd'hui, Didier Deschamps a une équipe riche. Il a pratiquement deux équipes en sa possession. Est-ce que c'est la meilleure ? La meilleure, ça, je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense que celle de 2000, elle était certainement pas mal quand même.
On a trois attaquants absolument extraordinaires, quatre, si on veut le dire différemment. Est-ce que ça change la disposition d'esprit d'un Didier Deschamps qu'on a souvent vu être très fort quand il fallait être un petit peu attentiste et partir depuis derrière ? Là, on se dit que voilà, la dynamite est devant. Est-ce que ça change les choses ? Est-ce que ça nous expose un peu plus ?
Écoutez, ça nous expose un petit peu plus... Oui, parce que le football, il démarre de derrière. Et la base, c'est la défense. Et je pense que pour l'instant, la base, elle est plutôt pas mal. Elle est solide, à commencer par notre capitaine, Hugo Lloris. Après, oui, on parle de nos attaquants. Mais vous savez, on a connu la même chose en 2002. Donc j'espère que ça va leur servir de leçon. On a 4-5 attaquants de classe mondiale qui peuvent faire la différence à tout moment. Et ça, c'est important, c'est l'état d'esprit que peuvent avoir les joueurs. Ouais. Sur ce point-là, je crois qu'Olivier Giroud est irréprochable.
Une toute dernière question, quelle est la clé du match selon vous face aux Allemands ce soir ?
La clé du match pour moi face à l'Allemagne, c'est ce qui va se passer au milieu de terrain, parce que ça va être un combat, parce que ça va être dur, tout simplement parce que nos amis, les Allemands, ils vont pas nous faire de cadeaux, ça c'est une certitude. Ils sont aussi un petit peu dans l'impasse, parce qu'on ne sait pas comment trop... juger les Allemands, mais Un joueur comme N'Golo Kanté, il y a un rôle, encore une fois, très très important dans le cœur du jeu de l'équipe de France.
Merci beaucoup, Robert Pires, de nous avoir permis de pénétrer dans le cœur du jeu de cette équipe de France. RTL Foot spécial championnat des nations de 20h à minuit, avec tout le service des sports d'RTL et nos envoyés spéciaux. Dans un instant, une pépite musicale. Elle sera signée Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On va retrouver nos grosses têtes et notre point météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour cher.
Bonjour Yves.
A tout de suite, bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h24, Anthony Martin, c'est l'heure de notre pépite musicale. On vous écoute avec plaisir.
Alors, dans la catégorie rendons à César, ce qui lui appartient, voici Mirza.
Vous n'avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza? La
chanson écrite et composée par Nino Ferrer, sortie en 1965. Ce qu'on sait moins, c'est que Nino Ferrer s'est mis à chercher Mirza en improvisant à partir d'un morceau qu'il avait déjà entendu. On ne parle pas d'une adaptation, hein, mais d'une source d'inspiration. Le morceau en question date de 1962, il s'appelle « La 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 », interprété à l'époque par un gamin de 12 ans, Stevie Wonder.
La 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 la.
Et la mélodie qui a servi de point de départ à Nino Ferrer pour créer Mirza. Et cette mélodie est même arrivée en France un an avant que Nino Ferrer ne s'en inspire. Sur un 45 tours de 1964, on trouve la chanson La 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 La. La chanteuse s'appelait Jocelyne.
Ah, Jocelyne.
Dans toutes les chansons.
De cette histoire, cette petite histoire, eh bien sans Jocelyne et surtout sans Stevie Wonder, il n'y aurait pas eu Mirza de Nino Ferrer.
On parle d'une inspiration ou d'un démarquage là pour que...
D'une inspiration d'une libre. C'est une figure libre. Voilà.
Ce qui manque, c'est le satané Mirza.
Exactement.
Voilà, nous sommes d'accord.
D'où la liberté de Nino Ferrer.
Mais bien sûr, merci beaucoup Anthony. On vous retrouve demain pour une autre pépite musicale.
À demain.
Vous savez quoi ? On va taper des mains avec les grosses têtes tout de suite et quelques fausses informations, les fake news.
On commence par Caroline Diamant.
Cet été, je vais publier mes mémoires de joueuse de poker sous le titre « Les plus belles paires de ma vie » aux éditions d'Orcel.
Paul Elkarat.
On m'a offert une enceinte connectée à Noël et comme je répondais plus vite qu'elle, elle s'est suicidée.
Yoann Rioux. Comme à la télé, je commente les matchs sans les images, RTL m'a demandé de commenter les matchs à la radio, mais sans le son.
Jean-Phi Janssen.
Oui, c'est moi qui ai été choisi pour chanter l'hymne du club de Lille, champion de France de football. J'ai enregistré la semaine dernière avec 2500 supporters lillois.
Allez Lille, allez Lille. Tout, 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 tout. Allez Lille, allez Lille. Tout, 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 tout. Allez Lille, mets un but, mets un but, mets un but.
C'est pas possible,
allez, mets
pas
un but. But. Et moi, je suis dans la lucarne.
Non, non, ça peut pas être ça.
On est d'accord.
Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Isabelle Mergault, Michel Bougenat, Gérard Jugnot, Valérie Mérès, Bernard Mabi et Florian Gazan. Le rendez-vous est pris, comme avec vous, Louis Baudin. Alors, cette météo, ce temps très chaud, demeure-t-il aujourd'hui?
Ah oui, ça persiste encore aujourd'hui, hein, avec des températures très élevées, forte chaleur dans la plupart des régions. Tout ça avec un ciel qui sera parfois un petit peu plus voilé. Hier, vous avez vu, on avait un ciel tout bleu.
Oui.
Ce sera pas limpide aujourd'hui. Il y aura quelques... Ça changera pas grand-chose, hein. C'est bien le soleil qui s'imposera, mais avec avec parfois donc des petits nuages qui circuleront quasiment sur toutes les régions cet après-midi. À signaler encore une fois un risque orageux sur les Pyrénées, comme hier. Alors, est-ce que ça débordera en plaine? En tout cas, sur le relief pyrénéen, il y aura des orages en fin d'après-midi. Petit risque également sur les Alpes, encore sur le relief corse. Et puis ailleurs, sous ce ciel donc très ensoleillé, les températures vont encore s'envoler. Alors, ce matin, il y a de gros contrastes. Il y a 26 degrés en ce moment à 7 à Perpignan, 23 degrés à Montpellier, à Nîmes, mais pas plus de 10 degrés à Nevers, au Puy, à Romorantin, ou encore 11 degrés à Guéret, donc grand écart. Et cet après-midi, là, en revanche, c'est chaleur pour tout le monde. 21 à 25 degrés près de la Manche. On aura 25 également à Biarritz, en bord de mer, parfois, avec la brise de mer, c'est un peu de mal à grimper. 26 à Nice. Mais dès qu'on sera dans les terres, nous serons entre 29 et 34 degrés au moins.
Puisqu'on a la chance d'avoir un petit peu de temps devant nous, quand arrivent les éclairs, le tonnerre, bref, les orages?
Eh bien, le lendemain.
Ça va finir par arriver.
Eh oui, voilà, exactement. Ça va arriver pour demain soir avec des orages qui vont arriver par l'ouest avec de l'air un petit peu plus frais. Alors, on sait toujours avec les orages, c'est compliqué d'être très précis dans leur localisation, mais le risque concernera surtout la moitié ouest. Et puis, dans le mercredi à jeudi, peut-être sur l'île de France. Et puis, à partir de jeudi, ben là, ce sont des vagues orageuses qui vont se succéder sur la France.
Merci beaucoup, Louis Baudin. Merci à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 15 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, je voulais vous emmener au restaurant, figurez-vous, à la Brasserie du Golfe à Savenay, dans les Pays de la Loire. Sauf que c'est fermé. Le gérant, Hervé de Choran, n'a pas assez de personnel pour faire tourner la boutique. Il avait 4 employés, 2 sont en arrêt maladie, un autre a démissionné et il a beau passer des annonces tous azimuts, pas moyen de recruter.
J'ai eu 3 appels, dont une femme charmante de 81 ans. Elle m'a dit qu'elle s'ennuyait un petit peu, que du coup, elle était prête à nous aider. Je trouve la démarche absolument charmante, mais elle ne conduit plus et tout, donc ça n'est vraiment pas possible. On était super contents de pouvoir enfin réouvrir nos établissements, et hop, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le réouvrir comme on le souhaitait. Donc c'est une situation complètement invraisemblable. J'ai des clients, mais je n'ai pas de personnel.
Hervé de Choran, joint pour RTL par Sébastien Rouxel.
Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination en France, cette fois, c'est autour des ados.
Plus de 30 millions d'adultes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin et désormais les 12-17 ans peuvent aussi se faire piquer avec du Pfizer. Faut-il sauter le pas? Réponse de Fabienne Cochère, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie.
Pour la tranche d'âge des plus jeunes, de 12-15 ans, on peut se donner 15 jours, 3 semaines pour vacciner en toute sécurité. Il faut qu'on soit vraiment sûr qu'il n'y ait aucun effet secondaire avec le déploiement en grosse population. On va avoir des données très rapidement de ce qui se passe aux États-Unis, en Israël, et puis on aura plus d'informations pour vacciner les plus jeunes.
Fabienne Cochère avec Agathe Landé. Le comité national d'éthique, de son côté, a regretté une décision un peu rapide alors que la plupart des indicateurs sont au vert. De fait, on compte désormais environ 12 000 patients Covid hospitalisés, dont 2000 en réanimation. C'est le niveau le plus bas depuis mi-octobre. Au Royaume-Uni, en revanche, le variant Delta fait des ravages et face au rebond de l'épidémie, Boris Johnson s'est finalement résolu à repousser de 4 semaines la levée des dernières restrictions anti-Covid. Au sommet de l'OTAN, Joe Biden promet de dire à Vladimir Poutine quelles sont ses lignes rouges. Les deux hommes doivent se rencontrer demain à Genève. Poutine doit comprendre que la mort de l'opposant Alexei Navalny serait une tragédie, c'est ce que dit le président américain. Retour en France avec cette journée cruciale au procès de l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est attendu à la barre, accusé de financement illégal de sa campagne de 2012, même s'il n'est pas directement mis en cause dans le système des fausses factures. Sa présence est un événement. Cela dit, Cindy Hubert, il ne va pas s'éterniser au tribunal.
Oui, ce sera une apparition éclair. Quelques heures d'interrogatoire et puis s'en va. Nicolas Sarkozy s'en tient à sa stratégie, la politique de la chaise vide. Il est prévenu, certes, mais il n'a rien à voir avec toutes ces magouilles. L'enquête n'a d'ailleurs pas permis de démontrer qu'il a ordonné cette fraude, qu'il y ait participé ou même qu'il en avait connaissance. Mais la présidente du tribunal est opiniâtre et elle l'attend avec cette question sur toutes les lèvres. Peut-on vraiment imaginer qu'un candidat à la présidentielle ait pu bénéficier de 20 millions d'euros de plus que les autres sans jamais donner son accord? L'ancien directeur adjoint de sa campagne, Jérôme Lavrieux, a déjà préparé le terrain, l'air de rien. Nicolas Sarkozy décidait de tout. Les décisions stratégiques se prenaient à l'Élysée. À la barre, Jean-François Copé, lui, n'a nommé personne, mais il n'a pu s'empêcher de glisser une piste. Il faut toujours se demander à qui cela profite.
Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Dans le Jura, les 300 salariés de la fonderie MBF de Saint-Claude seront fixés sur leur sort aujourd'hui. Décision au tribunal de Dijon. Beaucoup redoutent une liquidation pure et simple.
L'euro sur RTL.
7h33, cette fois-ci nous y sommes. Un premier match de l'Euro pour les Bleus.
Ils retrouvent leur meilleur ennemi, l'Allemagne, une équipe revancharde qui veut faire oublier la demi-finale perdue il y a 5 ans. L'équipe de France, elle, doit asseoir son statut de favorite. Mais pour Didier Deschamps, il ne faut pas en faire une montagne.
Le premier match, il est important, il n'est pas décisif puisqu'on aura deux matchs derrière. Mais la qualité de l'adversaire fait que c'est un choc d'entrée, donc c'est évidemment un choc pour nous, mais c'est un choc aussi pour les Allemands parce qu'on fait partie des meilleures nations européennes. Donc voilà, l'objectif, c'est rechercher l'efficacité.
Didier Deschamps avec Nicolas Georgerot pour RTL. Coup d'envoi de ce match à 21h à Munich. RTL Foot spécial Euro de 20h à minuit avec tout le service des sports et bien sûr les envoyés spéciaux d'RTL. Attention, pas de dérogation au couvre-feu. Si vous suivez le match dans un bar ou dans une fan zone, il faudra être rentré à 23h. Ah. Cela dit, Gérald Darmanin a envoyé tard hier soir une note au préfet en leur demandant de faire preuve de mansuétude. L'autre match de ce soir, c'est le Portugal, champion en titre qui affronte la Hongrie. Notez qu'hier soir, l'Espagne a dû se contenter d'un nul 0-0 face à la Suède. On termine avec un coup de chapeau à Guirec Soudé. 40 ans après Gérard Daboville, ce jeune breton de 29 ans tente la traversée de l'Atlantique Nord à la rame, 5000 km à bout de bras. Il est parti hier de Chatham près de Boston à bord de son petit rameur insubmersible, 8 mètres de long pour 1,60 m de large seulement.
Bah oui, c'est vrai que le bateau, il est pas grand, je fais pas ça pour le confort, hein. La partie habitation, elle fait 1,5 mètre carré, toujours à la même position, t'es dans l'humidité. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est quand même fou de se dire que, bah voilà, je vais pouvoir traverser un océan à la force de mes bras, comme ça, perdu dans l'océan, face aux éléments. Bah ça, c'est vraiment ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, quoi. Donc, j'ai qu'une envie là, c'est de commencer à ramer.
Eh bien, bon courage.
Ouais, bah c'est gentil, je vais en avoir besoin, merci.
On avance à rien dans. Direct soudé au micro RTL de Frédéric Veil. Bon courage, effectivement.
J'ai essayé de calculer le nombre de coups de rame qu'il allait devoir donner.
Oh là là, astronomique.
Oh là. D'ici, voilà la traversée. Allez, c'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. Nous nous retrouvons avec grand plaisir à 8h40 pour la face cachée de la une.
Et nous irons en Irlande chevaucher avec les Pony Kids, des gamins qui préfèrent les chevaux aux mobilettes.
À tout à l'heure, Isabelle. Merci beaucoup. Il est 7h35. Bonjour François Lambert.
Bonjour Yves.
Alors, pas besoin d'attendre 21h pour parler du match France-Allemagne.
Mais non, il y a les matchs de l'Euro et les matchs de la zone euro. France-Allemagne économique, résultat dans un instant.
A tout de suite avec François Langlais pour l'Angleco.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h37, l'Angleco avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Ce soir, c'est France-Allemagne au foot et ce matin sur RTL, c'est France-Allemagne, mais en matière d'économie.
Oui, je me suis replongé dans les indicateurs pour voir comment évolue la comparaison économique entre les deux plus grandes économies de la zone euro. Tout d'abord, une surprise. Il y a un peu plus de 20 ans, en 2000, c'était la première année de l'Union monétaire, les deux compétiteurs sont quasiment au même point en matière de PIB par habitant, c'est-à-dire de richesse par tête. 28 910 euros outre-Rhin, 28 930 chez nous. Vous voyez qu'à 20 euros près, c'est pareil, et 20 euros, on les dépasse d'une très courte tête. 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, l'Allemagne est à 34 110, alors que la France n'affiche que 30 690. Un décrochage de 11%, qui s'explique pour moitié par le fait que nous avons connu une récession plus profonde l'année dernière à cause du Covid, et aussi par des éléments démographiques, la population progresse plus vite chez nous que chez nos voisins.
En matière de finances publiques, on imagine que c'est la bérésina pour la France.
Ben, on n'a pas tort d'imaginer ça. En 2020, déficit de 9,2 points de PIB en France, il n'est que de 4,2 en Allemagne. La moyenne européenne étant à 6,9. Et si on élargit un peu la focale temporelle, ben, c'est pire.
Ah oui.
De 2012 à 2019, 8 années consécutives, l'Allemagne est tout le temps à l'équilibre ou en positif sur son solde budgétaire. Elle totalise 7,5 points de PIB d'excédent cumulé. Sur la même période, Paris enregistre 28,6 points de PIB de déficit cumulé. Inutile de dire qu'en termes de dette publique, cette évolution sur 8 ans donne des points d'arrivée complètement différents. À la fin 2020, nos voisins ont une dette de 70% du PIB. Nous, c'est plutôt 116.
Bon, on poursuit l'humiliation, le chômage par exemple.
2020, l'Allemagne avait un taux de chômage de 3,8. Alors que nous étions à 8, plus du double. Et c'est d'autant plus incroyable que en 2008, c'était il n'y a pas si longtemps, juste avant la crise financière, notre taux de sans-emploi était inférieur à celui de nos voisins, qui étaient encore, il est vrai, handicapés par les suites de la réunification et des désordres économiques qu'elle a engendrés.
Alors comment expliquez-vous un tel écart dans les performances économiques ?
Bah, écoutez, j'allais vous dire, les Allemands sont allemands.
Oui, aïe,
aïe. Non, c'est-à-dire qu'il y a un modèle social qui fonctionne avec un patient réglage de la compétitivité qui s'opère dans chaque entreprise, par le dialogue. Je devrais vous dire encore que le cours de l'euro est très favorable à la machine exportée allemande. Si l'Allemagne avait un Deutsche Mark, une monnaie nationale, bah, il serait certainement plus élevé. Et c'est le contraire pour la France. Le taux de change nous pénalise. Il pénalise notre appareil exportateur, moins spécialisé, moins prisé à l'international. Si je résume, la France exporte de la qualité espagnole au prix allemand. Bon, ça marche moins bien. J'exagère un peu, parce que bon, on a quand même le luxe, l'aéronautique, deux, trois secteurs d'excellence, mais le tableau global n'est pas brillant.
Y a-t-il aussi des différences de politique économique ?
Bien sûr, et c'est là le point central. Il y en a au moins deux. Le poids des impôts et des dépenses publiques, tout d'abord, bien sûr, considérable en France. Prélèvements obligatoires qui ont atteint leur plus haut historique avec Macron en 2019, à 47,4% du PIB. En Allemagne, c'est 5,7% de moins. Bah, ça joue, bien sûr, sur l'activité. L'autre différence tient au nombre d'heures travaillées. Non pas par semaine, où c'est quasiment identique de part et d'autre du Rhin, mais dans une vie. Conséquence, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de personnes au travail dans la population, il est de 75% en Allemagne contre 65% chez nous. 10 points d'écart. Rien que ça suffirait à expliquer un écart croissant dans la situation des deux pays. Travailler plus, bah, c'est créer plus de richesses, mais c'est aussi faire moins de déficit.
Bon, bah, je crois que la démonstration est assez claire.
3-0.
Oui, 3-0. Je vous remercie et je vous dis à demain matin. On espère que pour le foot, ça se passera dans l'autre sens. Il est 7h41. Bonjour Benjamin Sport.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Oui, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. Jour J pour la France, ce soir face à l'Allemagne. Il paraît qu'on a la meilleure équipe, alors bien sûr on rêve de la victoire. Peut-elle nous échapper ?
Formidable, à tout de suite pour notre rendez-vous avec le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët sur RTL.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Noël Le Graët, présidente de la Fédération Française de Football.
Bonjour Noël Le Graët, merci d'être avec nous sur RTL. Alors c'est le jour J, la France face à l'Allemagne ce soir. Est-ce que vous êtes confiant, la France va-t-elle remporter cet euro ?
Bah, écoutez, on est confiant parce que je crois qu'on a une très, très bonne équipe complémentaire. Les observateurs l'affirment, hein, ce qui nous donne non pas un peu de stress, certainement pas, mais il y a de bonnes équipes. Hein, j'ai regardé quelques matchs et vous aussi. L'équipe de France, certes, techniquement, elle a rarement été aussi forte. Au niveau joueur offensif, peut-être du plaisir de jouer ensemble, c'est sûrement l'une des meilleures équipes de France depuis longtemps.
Donc on est favori.
C'est très dur de dire on est favori. Moi, je dis toujours, c'est quand on est dans les derniers carrés, ça montre déjà une puissance. Ceci dit, les commentaires, les joueurs et le coach, et moi, tout le monde a envie de gagner, et vous aussi.
Pourquoi vous avez dit que c'était plus difficile que la Coupe du Monde ?
Parce que vous savez, l'Europe de l'Ouest a quand même les meilleures équipes, je trouve. Et regardez, notre groupe, il est un peu bizarre. On se retrouve avec l'Allemagne, qui est un vrai champion, qui a été champion du monde, qui a été champion d'Europe. On se retrouve avec le Portugal, champion d'Europe. Nous aussi, c'est le groupe le plus titré, sans mésestimer, bien entendu, les Hongrois qui reçoivent. Pour les qualifications mondiales, on n'a jamais autant de difficultés et autant d'équipes de talents dans les mêmes poules.
Alors d'habitude, vous fixez un objectif minimum, Noël Le Graët.
Non, je pense que c'est faux. J'ai souvent dit quand même que le dernier carré, dans beaucoup de compétitions, était une performance. Parce que regardez, pour le championnat d'Europe, un tir sur un poteau, vous perdez. Or en fait, dire on veut gagner, bah, évidemment qu'on veut gagner. Mais ceci dit, il faut déjà sortir de cette poule, même si il y a les deux premiers et le meilleur troisième. Mais il faut quand même être réaliste. Je crois que c'est la poule la plus compliquée.
Mais vous êtes optimiste quand même.
Bon, bien sûr, je les suis régulièrement. Je trouve qu'ils sont d'abord... ils aiment le maillot. Et ils sont détendus, contents d'être ensemble. Mais vraiment, j'ai connu des équipes plus difficiles. Et là, franchement, le boulot de Didier est vraiment... assez exceptionnel. Les joueurs sont très fiers d'être là et ils s'entendent bien. Il y aura toujours des petites histoires, heureusement.
Et oui, et justement, on est un peu inquiet parce qu'on a vu qu'il y avait eu un accrochage entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Kylian Mbappé en est ressorti affecté, a-t-il dit. Alors on se dit, est-ce que Didier Deschamps doit jouer les modérateurs plus que le sélectionneur? Ça a un peu inquiété les Français.
Je ne crois pas que Mbappé soit très contrarié. Je ne pense pas. Il a pris pour lui peut-être un moment, mais enfin, il a très bon caractère et Giroud aussi. Donc ça n'a aucune conséquence.
Alors Karim Benzema, le retour de Karim Benzema. Didier Deschamps a dit, c'est un non-événement tout de même. C'est pas rien quand même. Noël Le Graët, vous-même, vous souhaitiez qu'il réintègre
l'équipe de France. Moi, je souhaitais depuis longtemps. Quand on voit ce qu'il faisait au Real, il était impossible de ne pas le prendre. Parce que le Real de Madrid, c'est quand même la meilleure équipe du monde, ou l'une des meilleures équipes du monde. Et c'est assez bizarre, parce que Ronaldo parti, combien de fois j'ai entendu, dans mon bureau, enfin, c'est Ronaldo qui le fait jouer Benzema. Et en fait, il s'est révélé davantage, après le départ de Ronaldo, en prenant en main ses responsabilités dans cette équipe. Donc il a changé, lui aussi. Mm-hmm. Je l'ai trouvé très, très mûr, très courtois, pas du tout de rancune par rapport à ce qui s'est passé. Je le sens vraiment bien dans sa peau.
Et entre Didier Deschamps et lui, tout va bien ?
Très bien.
Il s'est blessé la semaine dernière contre la Bulgarie. Il va mieux ?
Oui, il va jouer ce soir. Oui.
Il va jouer ce soir.
Oui.
Il paraît qu'à la boutique, on s'arrache les maillots à son nom.
On a manqué de Z à un moment même.
Ah oui.
Pour imprimer. Oui, c'est vrai, c'est normal.
Alors, il y a eu cette polémique sur la chanson des Bleus de Youssoufa, Noël Le Graët. Vous avez regretté ce choix du rappeur Youssoufa. Marine Le Pen a affirmé sur RTL que ce choix était remonté jusqu'à l'Élysée.
Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière avec le président de la République.
Oui, que vous connaissez bien.
On n'en a pas parlé. Et même ici, vous savez, je crois que ça n'a pas dépassé nos jeunes qui s'occupent de la partie économique. Il n'y a pas eu de discussion, ni de contrat, ni de... Bon, c'est une fausse affaire. C'est pas... Il n'est pas question que ce soit un hymne repris tout le temps. Je trouve que c'était peut-être ceux qui l'ont fait, c'est sympathique, avec le retour de Benzema et tout ça, n'ont peut-être pas pensé aux conséquences, alors que l'artiste, c'est un bon artiste. Ces derniers temps, tout au moins, je suis renseigné un peu plus avec mes petits-enfants. C'est un peu plus de leur âge que du mien. Ils m'ont dit, mais non, c'est un type comme ça, c'est génial. Bon, ceci dit, il a eu dans le passé quelques paroles peut-être qui ont pu blesser quelques observateurs. Mais enfin, en aucun cas, c'est la chanson d'équipe de France. Ça n'est pas passé sur le site de la Fédé et ça n'ira pas plus loin.
Alors c'est un coup de tonnerre, Noël Le Graët, dans la diffusion des matchs de foot. Amazon a obtenu 80% des matchs de Ligue 1, et ce jusqu'en 2024. Alors, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle pour les fans de foot, ou c'est plutôt la victoire de l'argent sur l'intérêt des téléspectateurs ?
Je pense que les discussions ont été longues. Elles ont été menées par la Ligue et Canal, qui n'ont pas réussi à s'entendre un moment pour un écart qui n'était peut-être pas aussi important si chacun avait, et surtout Canal, mis un petit peu du sien. Bon, Canal, pour moi, c'est évidemment presque ma vie complète. Parce que depuis que je suis dans le foot, président de la Ligue, j'ai connu les débuts de Canal. J'ai dit l'autre jour qu'il devait aussi beaucoup au football. Les abonnés, parce que on peut parler d'audience, mais c'est, je pense que l'entreprise Canal, c'est plutôt les abonnés. Et je regretterais effectivement qu'il n'y ait plus Canal, et je pense qu'eux-mêmes doivent réfléchir davantage.
C'est le message que vous leur lancez ce matin?
Oui, je les ai vus la semaine dernière, mais en leur disant gentiment, c'est pas une polémique, s'ils veulent plus, ils veulent plus. Mais je pense que dans l'échange que nous avions, il était sain de part et d'autre. Et je crois effectivement qu'il faut aussi regarder l'environnement. C'est surtout les clubs qui sont en difficulté. Ce n'est pas la Ligue, ni Canal, j'en suis sûr, et heureusement d'ailleurs. Mais nos clubs, vous savez, le total du déficit atteint presque le milliard. Donc c'est énorme. Donc pour nos clubs, ne pas avoir deux diffuseurs avec un chiffre plus élevé que ce qui était prévu me paraît être aussi une erreur de ceux qui discutent avec nous.
Donc Amazon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous?
Je ne connais pas suffisamment ce qu'ils font. Je n'ai pas vérifié, puisqu'ils sont déjà partenaires de la Première Ligue. Et ils sont partenaires de l'UEFA. Et puis c'est une entreprise, c'est pas Media Pro, elle est saine, très très saine. Ils ont beaucoup d'argent. Là, on verra comment ils vont distribuer, c'est la première question à se poser.
Et oui, donc les téléspectateurs, les fans de foot ne seront pas lésés. C'est ça qui inquiète.
Ah ben c'est l'objectif numéro un, qu'on puisse effectivement montrer le maximum d'images à l'ensemble des, même les petits clubs. Parce qu'on ne peut pas dire je prends les deux meilleurs matchs. Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas ça non plus le foot. Le foot, c'est un championnat avec 18 maintenant clubs en première division, avec des petites villes, des grandes villes, des grands moyens. D'autres qui ont moins de moyens, mais tout le monde doit être vu. Et ça me paraît nécessaire de peut-être de rediscuter, mais de remettre des choses sur la table. Le foot appartient à personne, en fait. Il doit être diffusé très normalement.
Revenons à Kylian Mbappé. Alors, est-ce qu'on dit qu'il pourrait quitter le PSG ? Noël Le Graët, est-ce que vous souhaitez qu'il y reste ou tout au moins qu'il reste dans un club français ? Est-ce que c'est votre souhait ?
Bon, évidemment. Vous savez très bien que je regrette qu'on ait beaucoup de joueurs à l'étranger, dont nos 13 jeunes joueurs qui sont partis un peu vite, titulaires en Allemagne, dans beaucoup de clubs, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Je pense aussi que nos dirigeants doivent peut-être faire un peu plus d'efforts sur ces jeunes-là, qui ne gagnent quand même pas des fortunes. Mais non, mais Mbappé, s'il peut rester chez nous, quel bonheur.
Vous lui avez dit ?
Bien sûr, on le taquine tout le temps.
Et il rêve d'aller au JO de Tokyo ?
Non, ça je pense que maintenant, oui bien sûr il rêve.
Il ira
ça,
pas ?
Ça va être compliqué. Il faut bien se dire qu'entre le championnat, on espère aller assez loin. Et l'écart entre le début des JO, les stages, ça me paraît aujourd'hui utopique.
Il risque d'être un peu déçu, non ? Il le souhaitait ardemment.
Lui-même était heureux à un moment de dire, je trouvais ça très sain, qu'un garçon en pleine compétition. Mais aujourd'hui, il parle plutôt de 2024. Donc je suis moins rassuré pour le mois prochain.
Pour les JO de Paris.
De Paris.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Qu'est-ce que vous allez leur dire aux joueurs ?
Vous savez, ce
moment important.
C'est le début d'une compétition énorme. C'est une chance dans leur vie. On a besoin d'eux. Le football amateur a besoin qu'ils se conduisent bien. On est dépendant. Vous avez vu qu'on n'est pas non plus dans une situation financière exceptionnelle. Bien sûr que c'est pas. Ils vont pas rentrer sur le terrain en pensant à ce genre d'argument. Mais en tout cas, on a besoin d'un bon comportement et si possible d'un grand résultat.
Et donnez-nous un pronostic quand même. Pour ce soir, Noël Le Graët.
Pour ce soir, je veux dire que l'Allemagne, c'est difficile. Très difficile. Regardez les résultats. Pour l'Europe, on avait gagné à Marseille après un match énorme pour les demi-finales. Mais il y a quelques années, l'Allemagne, c'était intouchable. Pour toutes nos équipes. Alors, aujourd'hui, on rivalise. Et on peut gagner.
On peut gagner, on l'espère.
On espère.
Merci Noël Le Graët d'avoir été avec nous sur RTL. Bon match à vous et bon match à tous ceux qui nous écoutent.
Merci beaucoup.
On peut gagner. Puis je cite encore le président de la Fédération française de football au micro de Benjamin Sportouche. Nous avons sans doute une des meilleures équipes de France depuis longtemps. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous allons vivre la préparation à cette journée très très largement et point par point sur l'antenne d'RTL et avec infiniment de plaisir. Dans un instant, Cyprien Signy qui surfe avec Jérôme Salomon qui était notre invité hier. Le directeur général de la santé. A tout de suite, Cyprien.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
7h57, Cyprien, veuillez s'il vous plaît officier, puisque ce matin vous surfez avec Jérôme Salomon, notre directeur général de la santé.
Évidemment, c'était chez nous, ici sur RTL. Messieurs, dames, vas-y, on voit le jingle.
Événement RTL.
Oui, puisqu'hier à 7h45...
Bonjour Jérôme Salomon.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Le directeur général de la santé, Jérôme Bonjour. Salomon, face à la question cruciale du masque. Et là, il faut écouter très très attentivement. Oui.
Est-ce que le 30 juin, on pourra l'enlever ?
Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent.
Donc plus de masques en extérieur à partir du 30 juin.
Oui, alors il n'a pas été si cash, Jérôme Salomon. Il est quand même plus ou moins en train de nous faire un...
Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non.
Dis pas oui, dis pas non non plus, quoi. Et oui, il est malin, Jérôme Salomon. N'empêche que derrière, avec le buzz intergalactique du net, la machine est lancée partout.
Breaking news. À l'instant, Jérôme Salomon indique que le port du masque pourrait être levé à partir du 1er juillet.
La mesure pourrait être levée le 1er juillet.
Dès le 1er juillet, c'est ce qu'estime le directeur général de la santé.
Le professeur Jérôme Salomon l'a annoncé ce matin. Le masque, le 1er juillet, c'est fini.
Et voilà, emballé, c'est pesé. Joli Jérôme. Et là, évidemment, chez Olivier Véran.
Ça s'allume, ça clignote de partout et donc...
Du côté du ministère de la Santé, on a tendance à légèrement temporiser ce matin.
Le ministère de la Santé a lui fait savoir qu'aucune décision n'a encore été prise.
Ouais, et là, vous le voyez, Olivier Véran, encore en pyjama au petit-déj, en train d'appeler Jérôme Salomon en lui disant...
Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit mollo sur le destroy.
Eh oui, mollo, Jérôme. Mais en même temps, hein, comment lui en vouloir à notre Salomon national ? Ça a tellement été monsieur mauvaise nouvelle que bon, de temps en temps, il tente un truc un peu positif. Bon, alors généralement, ça foire, mais il tente. Hein. Tenez, le 14 mars dernier, à propos de l'arrivée des autotests.
Chez nous, c'est pour quand ?
Cette semaine, ça va être très facile à organiser.
Oui, cette semaine, facile. Bon, ils sont arrivés un mois plus tard. Mais bon, il a tenté. Un peu comme le 9 mars dernier, ici même sur RTL.
Vous vous posez la question d'un confinement de l'Île-de-France ?
Le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité.
Non, vous inquiétez pas. Et 10 jours plus tard...
Un nouveau confinement, donc, dans 16 départements, dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France.
Ouais, non, mais il a tenté, quoi. Comme avec les vaccins, d'ailleurs, quand le 17 décembre, il annonçait assez serein...
Alors sur la vaccination, la logistique est évidemment en place depuis plusieurs semaines.
Bon, on est prêt depuis des plombes, et puis on a vu, hein, oui. Non, tout cela reposant malheureusement sur le péché originel qui risque de le suivre longtemps. Oui, je sais, c'est cruel, c'est pas sympa.
Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public.
Le masque n'est pas la bonne réponse pour le grand public.
Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque. Si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque parce qu'on n'est pas soignant.
Eh oui. Après, comme tout le monde, hein, il fait un peu comme il peut, Jérôme Salomon, avec cette pandémie. Et comme il le dit si bien lui-même.
Comme disait Voltaire, avant de savoir, on ne sait pas.
Il est bon ce Voltaire quand même, hein. Pratique celle-là, je la ressortirai. Et
bon, bah, en tout cas, on vous retrouve à 18h de RTL soir avec Thomas Soto.
À tout à l'heure.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, des bleus plein les yeux.
Impossible de passer à côté du premier grand choc de cet Euro Allemagne-France. On sera à Munich dès le début de ce journal. À suivre aussi la fonderie de Saint-Claude dans le Jura, menacée de disparition. Vous entendrez la colère du maire.
C'est la ville qui coule. Et avec les familles, ça fait 1000 personnes qui sont au tapis si ça se passe mal. Donc on ne peut pas s'en foutre de ce dossier-là.
Et puis 60 références de glace rappelées en magasin à cause d'une substance toxique.
La météo, Louis Baudin ?
Oui, avec soleil et chaleur encore au programme aujourd'hui. Alors parfois quand même quelques petits passages nuageux dans le ciel, mais sans conséquence. Hein, c'est bien soleil qui s'imposera. Près des Pyrénées, risque orageux. Même chose sur l'Auvergne et les Alpes du Sud. Et puis les températures, toujours plus chaud avec cet après-midi 21 à 25 degrés près de la Manche, encore dans le Pays Basque, mais ailleurs 29 à 34 degrés au moins.
Louis Baudin.
RTL Matin. L'Euro sur RTL.
Quelle meilleure entrée en matière pour nos Bleus dans l'Euro que ce choc contre leurs rivaux historiques, les Allemands, les deux derniers champions du monde face à face. Coup d'envoi ce soir, 21h à Munich. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour à tous.
Vous êtes sur place pour RTL. Disons-le très simplement, Nicolas, ça démarre très fort.
Oui, il y aura des étoiles dans le ciel clair de Munich. 8 Coupes du Monde, 5 Championnats d'Europe réunis. C'est l'Allemagne et les mauvais souvenirs. Séville 82, le Mexique 86. C'est l'Allemagne que les Bleus ont enfin sorti dans une compétition. C'était à l'Euro 2016. Jamais la première marche n'a été aussi haute sous l'ère des champs. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France.
C'est une grande nation du football avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, qui ont l'habitude de gagner en club et qui seront très motivés à l'idée de démarrer une nouvelle compétition avec beaucoup d'ambition, qui plus est à domicile. Alors on s'attend à un match très difficile comme premier match du tournoi.
L'adversaire relevé, la pression, l'entame de la compétition, la pancarte de favori, grosse comme la Tour Eiffel, tout cela est à gérer pour des Bleus comme Raphaël Varane, invaincu depuis la Coupe du Monde 2014 face à la Mannschaft.
La réalité du terrain et répondre présent le jour J, c'est jamais prévu d'avance. C'est une compétition qui est ouverte, le niveau va être très élevé. Voilà, je pense qu'il y a tout pour vivre des belles émotions.
20 jours de préparation viennent de se terminer et tout commence. L'Australie en 2018, la Roumanie en 2016, rien n'a été simple pour débuter récemment. C'est le grand saut pour les Bleus.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot, en direct de Munich pour RTL Allemagne-France, à vivre sur notre antenne dès 20h jusqu'à minuit. Et parmi les stars de cette équipe de France, N'Golo Kanté, le milieu de terrain, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Chelsea. Il a dépassé Mbappé et Griezmann récemment en termes de popularité dans le sondage Odoxa Winamax pour RTL. N'Golo Kanté, c'est un peu le porte bonheur des Bleus et la fierté de son club d'origine, la JS Suresnes, où s'est rendu Sébastien Rouxel.
Et un simple coup d'œil en arrivant suffit pour s'en rendre compte. Sur les murs, deux grands posters à son effigie, son maillot en équipe de France. Alors forcément, Lucas, 13 ans, en parle des étoiles dans les yeux.
Quand t'es vraiment, je porte dans mon cœur. C'est une grande fierté de savoir qu'il a joué dans notre club. C'est un modèle. Il a quand même gagné la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Là, on espère juste qu'il gagnera l'Euro et sera la cerise sur le gâteau.
Impossible de perdre l'Euro avec N'Golo. Mehdi, leur entraîneur, en est convaincu. Il a joué plusieurs années ici à ses côtés.
À partir du moment où N'Golo est dans une équipe, ça gagne quelque chose. Si il fait une belle compétition à l'Euro, la suite logique, on l'espère tous, mais c'est le Ballon d'Or. Quelle fierté derrière d'avoir un joueur, entre guillemets, qui a fini le jeu, quoi. Nous, on appelle ça comme ça, finir le jeu, c'est de remporter toutes les compétitions qu'il dispute.
Une chose est sûre, lorsque Kanté foulera la pelouse ce soir, ce sera encore un grand moment pour le président du club, Sylvain Porto.
Il y a beaucoup d'émotions à chaque fois qu'on le voit rentrer sur un terrain. Je demande à tout le monde de se taire dans la maison. C'est un de nos enfants qui se retrouve au plus haut niveau de la pyramide du football mondial. Moi, je m'y habitue pas.
Pas de retransmission ici ce soir, Covid oblige, mais chacun, de son côté, promet de donner de la voix pour encourager la star de la JS Suresnes.
Le reportage de Sébastien Rouxel. Et pour ceux qui suivront le match dans des bars ou chez des amis, le couvre-feu à 23h restera la règle, même si les forces de l'ordre ont reçu des consignes de mansuétude de la part de leur ministre Gérald Darmanin. Il est surtout interdit de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et puis l'autre rencontre à suivre aujourd'hui, ce sera à 18h, Hongrie-Portugal en direct de Budapest.
8h05, attention si vous avez récemment acheté des glaces.
Plus de 60 références font l'objet d'un rappel en magasin. Vous pouvez retrouver la liste complète via notre site rtl.fr. Ces glaces contiennent un produit qui peut être dangereux pour la santé, l'oxyde d'éthylène. C'est un pesticide que l'on trouve notamment dans les graines de sésame. Et au-delà des glaces, de nombreux aliments contenant cette substance ont été rappelés ces derniers mois en France. Mais pas seulement. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
C'est en train de devenir un sujet en Europe.
Oui, des associations de consommateurs, la DGCCRF, la répression des fraudes en France, se sont penchées sur la question, de même que les autorités sanitaires européennes. Alors l'oxyde d'éthylène, c'est donc un produit chimique qui permet de tuer les germes ou les bactéries. Les autorités indiennes le pulvérisent sur tous les conteneurs qui envoient des graines ou des plantes à travers le monde. Le problème, c'est que ce produit chimique, il est considéré comme cancérogène et peut même affecter la fertilité. Alors, bien entendu, il faut consommer énormément de produits qui contiennent ce fongicide pour présenter des troubles. Mais l'Union européenne a imposé des normes très strictes, 0,05 microgrammes par kilo sur les graines, alors qu'aux États-Unis, par exemple, le seuil est à 7 microgrammes, donc beaucoup plus élevé. Et comme les graines de sésame, par exemple, interviennent dans la fabrication d'une multitude de produits comme la gélatine des glaces surgelées, eh bien, vous avez plusieurs centaines de produits grand public, y compris bio d'ailleurs, qui sont considérés comme dangereux et qui ne passent pas les tests. Résultat, la présence de cet oxyde d'éthylène est la cause de 75% des rappels de produits alimentaires depuis le début de cette année. Ça concerne des biscuits, du pain, des farines, du houmous, des huiles. C'est une mesure de prévention, j'insiste là-dessus, hein, parce qu'il faut vraiment ingérer de très grosses doses pour que ça devienne nocif, mais il vaut mieux éviter évidemment.
Merci pour toutes ces précisions, Martial Youx. La vaccination des ados en France, coup d'envoi aujourd'hui. Ils devront obtenir l'accord de leurs deux parents. Pour les épidémiologistes, c'est le seul moyen pour espérer obtenir l'immunité collective, alors que le variant indien ou Delta menace. En Angleterre d'ailleurs, Boris Johnson a décidé de décaler d'un mois la levée des dernières restrictions. Écoutez Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes à Sciences Po.
Il y a eu plus de 7000 contaminations en 24 heures et plus de 50% d'hospitalisation au cours de la semaine dernière, et 70% des gens qui ont été hospitalisés ont moins de 65 ans. À tout moment, un État, y compris la France, peut prendre des mesures restrictives parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une quatrième vague, notamment à la rentrée, lorsque tout le monde se sera lâché. Ce sont les jeunes qui ont envie de vivre leurs vacances, et c'est pour ça que cela interpelle tous les pays de l'Union européenne.
Propos recueillis par Julien Cellier dans les petits matins de RTL.
Dans un instant, la colère du maire de Saint-Claude dans le Jura, alors que le premier employeur de la ville, la fonderie MBF, pourrait être placé en liquidation aujourd'hui. A tout de suite.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Jérôme Florin. Journée cruciale à Saint-Claude dans le Jura pour les salariés de la fonderie MBF.
Le tribunal de commerce de Dijon pourrait prononcer la liquidation de cette usine qui fournit surtout Renault et Stellantis, l'ex-PSA. Près de 300 personnes sont concernées directement, mais c'est tout un territoire qui est menacé. La commune de Saint-Claude, qui a vu fermer ses usines les unes après les autres, a perdu 3000 habitants en 10 ans. Écoutez le maire Jean-Louis Millet.
C'est la ville qui coule. Et c'est dramatique pour toute une population. Ça me scandalise parce que derrière, il y a la vie de 282 personnes. Et avec les familles, ça fait 1000 personnes qui sont au tapis si ça se passe mal. Alors moi, j'aimerais qu'on arrête de jouer avec l'humain et qu'on prenne de vraies décisions intelligentes pour remettre en selle une entreprise qui est un bijou sur Saint-Claude, qui fonctionne, il y a un savoir-faire. Mais je pense que malheureusement, il y a une politique nationale qui le dépasse, qui est ministérielle et qui consiste à sacrifier la fonderie française au profit de groupes qui font tout fabriquer à l'étranger. Donc c'est une colère aujourd'hui, parce qu'on est dans la merde, excusez-moi, on est dans une situation impossible. Saint-Claude, c'est comme la capitale du Haut-Jura, c'est la locomotive du Haut-Jura. Donc on ne peut pas s'en foutre de ce dossier-là, c'est pas possible.
Le maire de Saint-Claude avec Raphaël Vantard.
8h11.
RTL. Régional 2021. Journal de campagne.
Et J-5 avant le premier tour. On fait le point sur les derniers échos de campagne avec vous, Vincent Derosier, bonjour.
Bonjour.
Retour d'abord sur ce débat tendu en Île-de-France.
Oui, tous les candidats débattaient hier soir sur LCI, de transport, d'économie, d'écologie, mais on a senti aussi beaucoup de tension à une semaine du premier tour et un tir groupé contre l'actuelle présidente de la région, Valérie Pécresse.
Chacun a parlé.
Mais attendez,
vous avez parlé. Si vous ne laissez pas parler les autres, on va s'arrêter. Chacun son tour.
Et Valérie Pécresse, finalement, a pu répondre.
À tout de même. L'info du jour, Éric Dupond-Moretti contre-attaque.
La vidéo a été vue plus de 2 millions de fois depuis samedi. On y voit le garde des Sceaux sur le marché de Péronne s'accrocher avec le candidat du Rassemblement National, Damien Rieu.
Allez, prenez votre Rolex.
Après 48 heures de silence et de flottement, l'entourage du ministre dénonce la méthode du RN, une vidéo trafiquée au montage, des provocations sur les réseaux sociaux, puis une victimisation. Éric Dupond-Moretti lui veut faire oublier la séquence. Il participera à un grand meeting numérique jeudi soir. Il sillonnera l'Oise et le Pas-de-Calais vendredi et Emmanuel Macron se rendra, comme par hasard, dans la région ce jeudi.
Enfin, après la bière sur la plage de la Baule, coup de chaud et gueule de bois.
Oui, c'est un demi qui passe mal entre Christelle Morançais et Édouard Philippe, à tel point que la candidate LR des Pays de la Loire est obligée de se justifier dans le Figaro. Non, elle n'a pas l'intention de s'allier avec La République En Marche. Il n'y a pas de complot, jure-t-elle, et je préfère boire une bière avec Édouard Philippe plutôt qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Sympa pour lui.
Merci beaucoup Vincent Derosier. À retenir également aujourd'hui Nicolas Sarkozy au procès Big Malion. Les explications de l'ancien président poursuivi pour financement illégal de campagne sont très attendues. Sa campagne de 2012 avait dépassé de plus de 20 millions d'euros le plafond autorisé.
L'histoire du jour ?
Le retour à la vie d'avant, c'est aussi cela. L'application de rencontre Tinder tourne la page du virtuel et organise une grande journée de l'amour à Lyon, samedi, où une hug zone, comprenez, un espace câlin, pour dire les choses sobrement, sera même ouverte pour les plus coquins. Il faudra quand même faire un test PCR juste avant. C'est pas très glamour, mais c'est ça l'amour aussi.
Un petit test PCR, c'est parfait. Il est 8h14, c'était le journal de Jérôme.
Yves Calvi, RTL Matin.
Et tout de suite, nous retrouvons notre brigade pour revenir sur ces probables fuites dans une centrale nucléaire en Chine. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, c'est encore un sale coup pour l'EPR ?
Oui, surtout pour l'image de l'EPR qui n'a pas vraiment besoin de ça, mais on va être honnête, ce type de problème n'est pas spécifique à l'EPR. Il y a déjà eu des dégradations du combustible dans des réacteurs français, même si ce n'est pas très fréquent.
Alors, ces réacteurs EPR chinois, leur fabrication a été commencée bien après celle de l'EPR français. Pourtant, ils ont été mis en service plus tôt. Comment l'expliquez-vous ?
Alors déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Oui. Les EPR chinois, eux aussi, ont connu du retard, plus de 4 ans. La construction du premier a commencé en 2009 pour une mise en service en 2018. Alors c'est vrai, ça a été relativement vite. Il y a là deux explications. D'abord, cet EPR a bénéficié du retour d'expérience français, oui. Ce qui a évité certaines erreurs. Et puis en Chine, on n'a jamais cessé de construire des réacteurs nucléaires. On n'a pas perdu la main ni le savoir-faire. Alors qu'en France, la centrale la plus récente, c'est celle de Civaux dans la Vienne. Et la mise en service de la première tranche remonte à 1997, 10 ans avant le début de la construction de l'EPR de Flamanville.
Et dont on ne connaît toujours pas la date de mise en service.
Non, la première pierre a été posée en 2007 et l'affaire aurait dû être pliée en 5 ans. La dernière date connue pour la mise en service, ce serait pas avant fin 2022, donc ça fera 10 ans de retard, mais ce sera certainement plus. Le délai maximal autorisé a été repoussé à 2024. Il y a encore des problèmes de soudure, et avant les soudures, c'était les soupapes de sécurité, des malfaçons, et aussi la cuve, dont le couvercle devra être changé de toute façon au plus tard, avant fin 2024, parce qu'il y a des défauts, et c'est une décision de l'autorité de sûreté nucléaire de juin 2017.
Dites-moi, plus les délais s'allongent, plus le prix augmente, non ?
Oui, on était parti sur un peu plus de 3 milliards d'euros en 2007, on en est à près de 13 aujourd'hui. aujourd'hui.
Il y a d'autres EPR en construction dans le monde?
Oui, le chantier le plus ancien est celui de Olkiluoto en Finlande, commencé avant le français en 2004. Il aurait dû être mis en service en 2009. Finalement, ce sera l'année prochaine, c'est pratiquement sûr. Il y a aussi les deux réacteurs de Hinkley Point au Royaume-Uni, actuellement en construction. Ils seront livrés eux aussi en retard et avec un budget en hausse.
Et bien, grâce à vous, j'ai notamment découvert Olkiluoto en Finlande. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Dans un instant, notre bureau de vérification dans l'information avec Jean-Mathieu Pernin et puis Michel Simès qui va nous donner ses conseils concernant la maladie de Lyme. A tout de suite.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h18, on va regarder les informations au plus près avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, la France fait-elle partie des pays les plus généreux en matière de dons de vaccins?
Et oui, qui sera le plus altruiste hein. Ce week-end, les pays du G7 se sont engagés à fournir 1 milliard de doses de vaccins aux pays les plus pauvres, un geste important, mais alors maintenant? Eh bien les gars, comment on se répartit les stocks hein? Alors qui lance la mise? Les États-Unis ont promis de réserver 200 millions de doses pour COVAX, qui est le système de solidarité qui vise à doter en vaccins les 92 pays aux plus faibles revenus. Les Britanniques ont annoncé le partage de 5 millions de doses avant fin septembre et 25 millions de plus d'ici la fin de l'année. Idem pour l'Allemagne et un peu moins pour l'Espagne qui promet 22 millions de doses. Et la France est-elle prête à s'aligner? Ben oui, et pas qu'un peu en fait, puisqu'au départ c'était 30 millions de doses et dimanche Emmanuel Macron a promis 60 millions de doses, donc presque une dose par habitant, puisque nous sommes 68 millions. Mmh. Nous sommes donc assez avancés dans le programme COVAX, il faut le dire. La Chine, elle, a préféré faire cavalier seul et pratique sa générosité en solo, explique la chaîne LCI. Pékin aurait promis 500 millions de doses à 45 pays, un chiffre que pourraient atteindre d'ici la fin de l'année les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est un vrai match.
Alors vous allez me trouver chafouin, mais s'agit-il de se débarrasser des doses d'AstraZeneca?
Et vous n'êtes pas chafouin, Yves, du tout. Vous êtes dans la tendance, c'est incroyable. C'est l'accusation la plus récurrente à l'égard de cette générosité. Moche. Et oui, et il est vrai que le vaccin mal aimé ne fait vraiment plus recette chez nous, puisque selon les dernières données de Santé publique France, les injections avec le vaccin suédo-britannique ne représentent plus que 0,3% des doses injectées quotidiennement.
J'ai été vacciné avec, je vais très bien.
Et c'est très chic, je trouve. Hein. Oui. Voilà, ça se fait rare. À peine 2000 personnes reçoivent aujourd'hui leur première dose avec de AstraZeneca. La France dispose aujourd'hui d'environ 2,8 millions de doses, auxquelles il faudra rajouter les 4,4 millions attendus courant juin. Alors le tout avec une date d'utilisation limitée à 6 mois. Alors le Quai d'Orsay explique au HuffPost qu'il ne s'agit en rien de se débarrasser, mais que l'AstraZeneca est celui qui voyage le mieux. Mmh. Alors malgré une balance bénéfice-risque largement en faveur du vaccin, eh bien la réputation est entamée en Europe, donc autant faire profiter les autres.
Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que l'engagement du G7 n'est pas suffisant.
Eh bien oui, COVAX avait livré au 14 juin plus de 85 millions de doses dans 131 pays, bien moins que prévu. L'annonce du G7 est donc la bienvenue, mais selon l'OMS, il faut aller plus vite en fournissant plus de doses. Il faut pour les pays à plus faible revenu, 1 milliard de doses en septembre et 1 milliard à la fin de l'année. En tout, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas 1, mais 11 milliards de doses qu'il faudrait pour mettre fin à la pandémie. Il va donc falloir monter des vaccinodromes de générosité. Hein.
Jean-Mathieu Pernin, merci infiniment. Dans un instant, nous allons retrouver Michel Simès. Alors voilà, bah c'est pas compliqué. Si vous voulez courir en forêt, vous mettez bien votre petit pantalon de jogging, c'est pas la peine de se faire piquer.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Mais bonjour cher Michel.
Mais bonjour monsieur Yves.
Alors, à l'approche des vacances estivales, vous vous adressez à tous les amateurs de balades dans la nature et notamment dans les zones boisées.
Oui, les zones boisées, parce que c'est là que se concentrent les tiques, même si ces bestioles ont tendance à en sortir pour investir nos jardins. On s'en est aperçu l'an dernier, à la faveur des confinements successifs où beaucoup de Français ont passé pas mal de temps dans leurs jardins. La proportion des cas dans cette configuration a explosé. Et le problème avec la tique, eh ben c'est qu'elle est maligne. Elle se poste sur un brin d'herbe et elle attend le client auquel elle va s'accrocher par la tête. Et le client, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel baladeur qui offre sa peau dénudée. Ensuite, le passe-temps favori de la tique, eh bien c'est de vous sucer votre sang et accessoirement de vous laisser un souvenir sous la forme d'une maladie enquiquinante bien que non contagieuse, la maladie de Lyme. Quelques 50 000 personnes en souffrent en France.
Alors, la fameuse maladie de Lyme, quels en sont les symptômes et les séquelles?
Alors d'abord, qui dit morsure de tique ne dit pas forcément maladie de Lyme à la clé, mais dans 15% des cas, la bestiole est porteuse d'une bactérie qui répond au doux nom de Borrelia burgdorferi sansu lato. Oui. C'est cette bactérie qui potentiellement vous refile la maladie. Mm-hmm. Alors le symptôme, c'est un érythème migrant, c'est-à-dire une sorte de plaque rouge circulaire qui grossit autour de la piqûre. Bah, sauf que cette rougeur n'apparaît pas tout de suite. Il lui faut une ou deux semaines pour se manifester. Pendant ce temps-là, bah, vous avez de la fièvre, des maux de tête. Vous êtes KO debout. Côté séquelles, c'est plus problématique. Si l'affaire n'est pas traitée rapidement, il y a des antibiotiques hein, pour ça. Ouais. La maladie peut toucher les articulations, notamment celles des genoux, voire s'attaquer au système nerveux et générer une paralysie temporaire d'un côté du visage ou vous engourdir les muscles pour un moment.
C'est extrêmement impressionnant. Comment se protéger ?
Ben, en se protégeant, justement. Alors concrètement, ça veut dire que si vous baladez en forêt ou dans des zones humides, vous devez couvrir les parties de votre corps susceptibles d'être en contact avec des herbes hautes ou des buissons. Mm-hmm. Ça vaut pour les bras, ça vaut pour le cou et ça vaut surtout pour les jambes. Donc, exit les tongs et les sandales, place aux vraies chaussures. Je vous conseille par ailleurs le pantalon plutôt que le bermuda et tant qu'à faire de coincer le bas de votre pantalon dans des chaussettes montantes. Enfin, après votre balade, pensez à inspecter votre peau à la recherche d'une éventuelle piqûre. Dernière chose, investissez dans un tire-tique. Une sorte de petite pince pensée pour se débarrasser de la bestiole qui n'a pas son pareil pour s'agripper à la peau. Ceux qui ont des animaux de compagnie le savent mieux que quiconque.
Merci beaucoup Michel et à demain.
À demain.
De l'Euro, vous entendez. France-Allemagne, match au sommet pour nos Bleus ce soir qui font leur entrée dans l'Euro de football. Coup d'envoi à 21h, je vous le rappelle. Vous suivrez tout cela, bien entendu, sur RTL. Et dans un instant, vous allez pouvoir découvrir les confidences de Kylian Mbappé. J'ai bien dit Kylian Mbappé, au micro de Philippe Sansfourche. A tout de suite.
L'Euro sur RTL.
Les Bleus font donc leur entrée dans l'Euro de football ce soir. Notre grand spécialiste maison Philippe Sansfourche a pu recueillir à quelques heures du match les toutes dernières confidences de Kylian Mbappé, entretien réalisé pour M6 et RTL.
Bonjour Kylian Mbappé.
Bonjour.
Ça y est, ça démarre. L'Allemagne face à la France, c'est les deux derniers champions du monde qui se rencontrent pour un premier match à l'Euro. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'escalader l'Everest par la face nord ?
Ouais, c'est vrai que c'est un match très difficile contre une équipe... Qui fait partie des favoris aussi à la victoire finale. Maintenant, on n'a pas choisi le tirage au sort, c'est tombé. Maintenant, on va aller jouer ce match en se préparant de la meilleure des manières. C'est ce qu'on a fait pendant la préparation. Je pense que l'équipe est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit.
Par le passé, l'équipe de France est souvent montée en puissance dans les compétitions.
C'est vrai.
Là, il n'y aura pas le choix.
C'est vrai qu'à la Coupe du Monde, on a commencé plutôt timidement. Mais le fait que on ait joué des adversaires un petit peu considérés comme un petit peu moins forts, c'est passé. Là, on ne peut pas se permettre de commencer timidement. Mais je pense que l'équipe en a conscience, le groupe en a conscience. Donc c'est le plus important. On est prêt à attaquer d'entrée. Et je pense que ça peut nous servir aussi. Parce que de jouer une équipe comme l'Allemagne, ça vous met tout de suite dans le bain. Et ça vous met tout de suite dans l'intensité des grandes rencontres de l'Euro.
Dire que la France est le favori de l'Euro, c'est un gros mot ?
Non, c'est pas un gros mot. Comme j'ai dit, on a longtemps reproché aux médias, aux gens de pas nous soutenir, de pas avoir d'enthousiasme. Maintenant qu'ils l'ont, on peut pas leur reprocher. C'est sûr que d'avoir tout le pays derrière nous, on est très satisfait. Maintenant, les matchs, ça se joue sur le terrain. C'est ça la vérité. C'est là où on doit faire gagner notre respect, où on doit faire valoir ce statut que tout le monde nous donne. Mais la seule vérité, c'est le terrain.
Est-ce que vous croyez aux bonnes ondes, Kylian, ce terrain de Munich, vous le connaissez bien. Ouais. Il ne faisait pas la même température, il y avait un peu de neige. Mais non, vous aviez marqué un doublé face au Bayern, face à Manuel Neuer, considéré comme le meilleur gardien du monde. Est-ce que ça rend plus fort, ça ?
Bien sûr. Mais je pense que ça vous donne plus d'expérience aussi, ce genre de match. J'ai toujours dit que je voulais jouer contre les meilleurs. Neuer, c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. On va rejouer contre lui encore. C'est une belle occasion encore de faire un beau match. Et voilà, que le meilleur gagne.
Si j'ai bien compté, vous avez inscrit 46 buts cette saison entre le PSG et l'équipe de France. Vous êtes fixé un objectif pour finir la saison à combien ?
Je sais pas. Je crois que c'était jamais arrivé au 21e siècle, hein, qu'un joueur mette autant de buts. Donc j'ai déjà dépassé ce standard-là. Maintenant, je pense que je suis arrivé à un stade de ma vie, même de ma carrière, où je veux plus trop me focaliser sur les autres, plus repousser mes limites à moi, c'est le plus important. Voilà, essayer de toujours donner le meilleur de moi-même, de repousser mes limites au maximum et de voir jusqu'où ça me mène.
Vous serez Ballon d'Or en fin de saison ?
Ça passe par l'Euro. Il n'y a pas le choix. Mais c'est tôt, j'y pense pas. Franchement, je l'ai déjà dit quand je le jouais déjà les autres années, le Ballon d'Or, que j'essaie de pas y penser parce que J'arrive pas à penser à un trophée individuel et après de sortir, être collectif, faut penser d'abord au collectif. Et bien sûr que si le collectif t'a fait briller, tu brilleras aussi par toi-même et tu pourras arriver à ce genre de prix.
Vous dites souvent que vous voulez marquer l'histoire. Marquer l'histoire, ça passe par marquer dans les grands matchs, jouer dans les grands matchs. On se souvient tous de l'Argentine.
Bien sûr.
Contre l'Allemagne, qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer l'histoire?
Je pense que tous les matchs où j'ai marqué l'histoire, j'étais parti avec une intention collective, une intention vraiment d'aider mon équipe, et l'équipe me l'a rendu. Donc c'est toujours partir avec cet état d'esprit d'aider mon équipe. Et ensuite, je suis sûr que l'équipe me le rendra, et moi je pourrai ensuite briller, bien sûr.
Tout va très bien en ce début de préparation. Il y a eu une petite tension dont on a parlé entre Olivier Giroud et vous. Est-ce que le plus dur dans le football, c'est de savoir marier les objectifs individuels avec les objectifs collectifs?
Je pense plus en club. C'est plus difficile en club parce que je pars du principe que le pays c'est au-dessus de tout et que pour le pays il n'y a pas besoin d'avoir une guerre d'ego. Voilà, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin pour se mettre au service du pays et essayer de tirer son pays vers les sommets comme on l'a fait en 2018.
Il y a énormément de talent dans cette équipe de France, mais ce qui avait aussi fait la différence en 2018, c'était la niaque, la faim. Est-ce que vous sentez la même faim?
Ouais, on a faim, on veut gagner. On a l'impression que, voilà, on est dans un moment où on peut vraiment faire des belles choses. On le sent, tout le monde le sent. Maintenant, voilà, il faut garder cette envie. On veut laisser notre nom dans l'histoire de la France. Et ça passe par faire des choses que personne n'a fait. Même si, bon, faire Coupe du Monde d'Euro, ça a déjà été fait dans notre pays. Mais voilà, ça passe par là. Essayer de gagner l'Euro, c'est ça. Ça commence comme ça et on est affamé, bien sûr.
Kylian Mbappé. La priorité, c'est évidemment l'équipe de France, mais on pense tous à votre avenir. Vous aviez dit que pour rester au PSG, vous vouliez un projet qui soit ambitieux. Le Hollandais Wijnaldum vient d'arriver. C'est suffisant pour rester au PSG?
C'est un très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur. Je suis très content qu'il arrive. Voilà, c'était une belle opportunité que le club a saisie. Ils ont très bien travaillé. Maintenant, le Paris Saint-Germain, c'est absolument pas ma priorité. Ma priorité, c'est l'équipe de France, c'est 7 euros. C'est une grande compétition, donc moi je suis concentré 100% sur l'Euro.
Pour conclure, Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en priorité pour cet Euro qui s'ouvre?
La victoire, je l'avais déjà dit à la Coupe du Monde. Même mettre 0 but et on soulève la Coupe, je serai le premier à soulever la Coupe. Hein. Donc c'est la victoire qui compte.
Merci beaucoup Kylian Mbappé.
On ne peut pas se permettre de jouer timidement. Quel état d'esprit? C'est tout Kylian Mbappé que vous venez d'entendre au micro de Philippe Sanfourche. Entretien réalisé ces dernières heures pour M6 et RTL. On retrouvera tout notre service des sports et nos envoyés spéciaux ce soir à partir de 20h. Coup d'envoi du match, je vous le rappelle, 21h, France-Allemagne depuis Munich. Dans un instant, la météo à 7 jours de Louis Bonin. Vous voyez déjà avec moi, orageuse, nous dit-il. Très bien, il va se passer des choses.
RTL Matin, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. C'est un duo de comédiennes que je vous propose de rencontrer ce matin. Dans le film « Un tour chez ma fille » qui sort mercredi au cinéma, Josiane Balasko joue la maman de Mathilde Seigné. Dans la vraie vie, ces deux-là sont amis et ça s'entend. Souvenirs de tournage, place des parents dans nos vies. Le tandem Balasko-Seigné se raconte et c'est ce matin à 9h dans « Laissez-vous tenter ».
RTL Matin. 8h36, la météo, Louis Bodin.
Oui.
Alors, vous nous annoncez les orages, oui. La question c'est quand?
Voilà, c'est ça. Alors donc, on a dit aujourd'hui, non, pas encore, sauf près des Pyrénées, mais c'est à partir de demain où là, on va commencer à se remonter les manches en matière de prévision, parce qu'avec les orages, on est toujours surpris. Alors normalement, ces orages devraient commencer demain dans les régions de l'Ouest, entre la Bretagne et les Pyrénées. C'est là où ils se manifesteront. Et puis en cours de journée, ils vont progresser un petit peu vers l'Est, donc peut-être sur la Normandie, puis sur le Val-de-Loire, puis peut-être sur le Limousin. Et puis en soirée, ça pourrait être toute la moitié ouest, hein, peut-être sur l'Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, donc ça dans la soirée. Dans l'Est, vous voyez que donc vous aurez une journée supplémentaire avec encore de fortes chaleurs et du soleil. Et puis à partir de jeudi, alors là, ce sont des lignes orageuses qui vont traverser la France. Alors ça sera parfois le matin, parfois l'après-midi, entrecoupées quand même de belles périodes ensoleillées. Les températures sont en baisse, mais resteront encore élevées. Hein. Nous serons souvent entre 25 et 30 degrés. La journée de vendredi risque d'être exécrable. C'est là où les orages les plus violents, les plus importants sont attendus. Ah. Samedi, des orages peut-être un petit peu plus dispersés avec
vendredi,
des températures.
C'est bien du poisson, n'est-ce pas?
C'est ça, oui, bah, le poisson va être agité.
Avec... Ou noyé même.
Ou noyé. Ouais. Mais enfin, bon, pour un poisson, c'est un peu paradoxe. Et pour le week-end, donc toujours cette instabilité, alors peut-être un petit peu moins marquée entre samedi et dimanche, hein, mais au-delà de 48 heures avec les orages, il faut rester prudent. Et puis en début de semaine prochaine, c'est d'ailleurs franchement un peu plus frais qui pourrait arriver, avec là un temps un peu plus classique, avec de l'humidité, des passages nuageux dans la moitié nord, un peu plus de soleil dans le sud, et des températures là pour le coup, oui, peut-être un peu juste pour la période.
Bon, il y a une logique dans tout ça, oui, les orages devaient arriver, les pires moments c'est pour vendredi pour l'instant,
voilà.
Et là ça peut commencer à frétiller un tout petit peu à partir d'aujourd'hui. Je vous ai bien suivi.
C'est ça.
Ben voilà, c'est ce qu'on appelle une météo à 7 jours. Elle a été très complète une fois de plus et elle est signée Louis Baudin. Merci cher Louis. Restez avec nous. Si vous n'avez jamais entendu le jingle d'RTL chanté par des chanteurs corses de grand talent, ben vous serez surpris dans un instant. Allez.
RTL, vous êtes comme ça.
Avec un air de vacances ce matin, fermez les yeux, ça sent le maquis, la mer est toute proche, il fait beau. Nous sommes en Corse, à Sartène, très exactement, pour savourer les magnifiques voix des groupes polyphoniques corses. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez assisté à une répétition du chœur de Sartène avant qu'il ne se produise de nouveau. Vous nous emmenez donc dans la très ravissante église du village, au sud de la Corse.
Là c'est l'église paroissiale Sainte-Marie de Sartène, donc c'est l'église qui est au centre du village.
Elles sont aujourd'hui cinq et Stéphane Paganelli est l'une d'elles. Cinq voix du chœur d'hommes de Sartène qui répètent méthodiquement, rigoureusement.
Sartène est une terre de chant, mais nous chantons de la polyphonie, mais un peu particulière. La polyphonie, elle est orale. Sartène, il y a cette oralité, mais aussi cette écriture. Nous avons des partitions des moines franciscains et toutes nos compositions modernes et contemporaines sont un peu les héritières de ces compositions classiques qui datent du 19e ou même avant. Et nous, notre credo, ça a toujours été de mêler Méditerranée, polyphonie corse et chant classique.
Un groupe polyphonique a cappella, héritage des chants grégoriens des moines franciscains installés ici depuis des siècles.
Ce qu'on a appris sur les chants sacrés d'ici de Sartène, on le fait partager à tout le monde, comme à la confrérie, un peu aux jeunes comme ici, parce que ça ne doit pas se perdre dans ce truc-là.
Moi j'enseigne dans un collège, nous avons créé deux chorales. Et chaque année, nous faisons des concerts et nous faisons de la formation musicale pour ces jeunes élèves qui sont des collégiens. Et chaque année, ça fonctionne très bien. Ils sont en demande et de plus en plus nombreux à vouloir chanter.
Le chœur de Sartène compose des chants qui marient le monde classique et la tradition corse. Il a créé ce groupe en 1995, Jean-Paul Poletti, un monument du chant traditionnel corse.
Il y a une façon de chanter à Sartène. Il faut que les tempis soient respectés. Le travail franciscain, je dirais, des siècles. Il ne faut pas se tromper d'une croche.
Ce que vous nous décrivez, Julien, c'est un héritage religieux.
Oui, absolument, mais cela transcende. Il y a le sacré, des chants de messe, bien sûr, et il y a l'universel. Autre curiosité, d'un côté, la quête d'une harmonie parfaite, des voix sublimes et techniques. De l'autre, la simplicité d'une ligne finalement très classique. Ténor, baryton, basse, 6. Deux ténors, deux barytons et deux basses.
Le beau, de toute façon, il est transcendé quand on le fait. Quand les choses sont à plusieurs. Vous savez, quand les Corses chantent bien, il y a cette petite note que personne dans le groupe ne fait, mais qui est apportée par l'harmonie. Cette quintine, là, c'est la grâce.
Je pense que le chant ici, il a toujours une fonction sociale. Il peut accompagner la religion comme il peut accompagner les gestes du quotidien. Du reste, les grands lyriques de Corse, c'est tous des gens qui viennent du chant populaire.
Une tournée en Inde, il y aurait eu sans le Covid des concerts à Hong Kong ou en Malaisie, le caractère exceptionnel du chœur de Sartène, dont les compositions s'inscrivent pourtant dans une culture, un territoire, une langue et des habitudes.
Ce qui fait le chant en Corse, c'est la vie, c'est le quotidien. On chante pour le baptême, pour le mariage, on chante quand on va boire un coup, on chante...
Jean-Louis Blénaud, chanteur et compositeur pour le groupe.
Les paysans chantent quand ils battent le blé. Et donc on se sert de certains vieux chants, forcément qui datent de plusieurs siècles, pour faire de la création.
Et pour finir, puisqu'ils sont auditeurs de RTL et admirateur de Michel Legrand, cette petite surprise pour nous tous ce matin.
Tintin,
Merci.
Quel magnifique top horaire d'RTL. Merci infiniment, Julia Fautra, pour ce moment très agréable à Sartène en Corse. C'est un reportage ensoleillé à retrouver sur le tout nouveau site RTL.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Après le cœur de Sartène, ce matin, Isabelle Choquet, vous nous emmenez, vous, en Irlande, sur les traces des Pony Kids.
Oui, les westerns existent toujours, pour de vrai, mais très loin des grands espaces américains. Dans des banlieues miséreuses, de jeunes Irlandais rebelles montent des chevaux de fortune et défient les autorités. J'ai lu ça dans la revue Sphère, dont le dernier numéro est consacré aux cavaliers. La République d'Irlande, c'est à peine 5 millions d'habitants et près de 160 000 chevaux. L'île est le premier producteur de pur sang en Europe. La filière emploie des milliers de personnes. Les hippodromes sont pleins à craquer. Bref, l'Irlande, c'est passion cheval. Et pas seulement chez les gosses de riches. Au contraire, oui. La tradition est très ancrée dans les quartiers pauvres. Ça date des années 70. À l'époque, l'État irlandais a encouragé la sédentarisation des Irish Travellers, des gitans nomades qui se déplaçaient en roulotte. Les gitans se sont posés. La banlieue de Dublin s'est peuplée de chevaux. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, il suffit de pousser jusqu'au terrain vague de Dunsink. Les gens abandonnent leurs chevaux là-haut, dit le député local du Sinn Féin. Certains meurent faute de nourriture ou parce qu'ils mangent des plantes toxiques. Il faut dire que l'endroit n'a rien d'une verdoyante prairie. C'est une ancienne décharge à ciel ouvert, coincée entre un camp de gens du voyage, l'autoroute et la cité. Une centaine de bêtes errent dans cette friche. Beaucoup sont abandonnées, mais certaines appartiennent à des gens du coin. En fait, ils les laissent là pour ne pas payer de frais d'hébergement. En 2018, près de 500 chevaux ont ainsi été saisis par la fourrière autour de Dublin. Pour récupérer son animal, il faut payer 1200 euros. Or, pour racheter un cheval, c'est 10 fois moins cher. Alors, la plupart des bêtes finissent euthanasiées au bout de quelques jours. Les jeunes cow-boys flirtent aussi avec la légalité en mode rodéo. L'an dernier, à l'ouest de Dublin, la Nationale 7 a été coupée sur 4 voies par une course de trot sauvage, suivie par un convoi de voitures en délire. Dans ces courses de sulky, il y a beaucoup de compétiteurs amoureux de leurs chevaux, dit un policier. Mais il y a aussi quelques criminels de haut vol. Des courses comme ça, il y en a environ une fois par mois en Irlande. Ça génère des paris astronomiques jusqu'à 20 000 euros. Et ça peut virer au drame aussi. En 2016, un enfant de 12 ans est mort en percutant un camion avec son attelage. Les problèmes se concentrent essentiellement à Smithfield. C'est un quartier du centre où se tient la foire aux chevaux. Depuis des générations, c'est le rendez-vous des gamins de banlieue qui perpétue la tradition de l'équitation urbaine. Ici, on peut échanger une bourrique contre un paquet de cigarettes, dit un habitué. Mais elle est loin, la belle époque où chacun pouvait chevaucher son poney sans souci dans les rues de Dublin. Aujourd'hui, les autorités sont sur les dents. En 2011, une fusillade sur le marché a fait 2 morts. Il y a aussi ces rumeurs insistantes qui disent que les chevaux sont utilisés comme passeurs de drogue. C'est devenu bien difficile d'être un pony kid, dit un nostalgique. Et pourtant Yves, la passion initiale n'a pas disparu. Le simple amour du cheval, le plaisir de monter, il faut aller les chercher au fond d'une allée dans le quartier de Fingas. Là, dans ce quartier gangréné par la drogue, il y a une écurie, une vraie. La police a détruit le local de fortune des gamins du coin, alors un retraité philanthrope a reconstruit. Taylor, 14 ans, prend soin des montures et il a repris le flambeau des mordus du trot attelé. Mes parents sont contents que je vienne ici, dit-il, parce que comme ça, je ne traîne plus dans la rue. Il n'aime pas trop l'école, il rêve de devenir vétérinaire. Les classes populaires ont du talent, dit le propriétaire, mais elles n'ont pas confiance en elles. Et puis, qui les aime, à part leurs chevaux? Les Pony Kids, c'est un grand reportage à lire dans la revue Sphère.
La République d'Irlande, c'est 5 millions d'habitants et près de 160 000 chevaux. Vous nous avez donné ce chiffre qui est lui aussi est étonnant. Oui, absolument. Merci Isabelle, on se retrouve demain matin.
Avec plaisir, à demain.
Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe sur RTL.
RTL. Here we go together. RTL. Nice cool breeze with big palm trees. I'll tell you, check him off in a net. Toujours avec vous.
RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Non, il est 8h48. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour.
Bonjour Yves. Jade.
Bonjour Monsieur Calvi.
Voilà.
Et bonjour tout le monde. Selon les dernières enquêtes d'opinion, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon a connu ces derniers jours une baisse spectaculaire.
Ah bon ?
Bonjour Monsieur Mélenchon.
Monsieur Mélenchon, vous êtes bien avec nous?
Bonjour.
Mais alors qu'est-ce que t'attends, Ruffin? Réponds-lui, elle t'a dit bonjour, tu dis bonjour.
Bonjour madame.
Oui, bonjour François, bonjour Ruffin. Mais que se passe-t-il? Pourquoi me répondez-vous à la place de Jean-Luc Mélenchon?
Parce que monsieur Mélenchon, chaque fois qu'il répond un truc, il peut pas s'empêcher de dire une grosse bêtise. Et après, il baisse dans les sondages, il reçoit un sac de farine sur sa veste noire. Et comme il en a qu'une de veste noire, c'est pas pratique.
C'est vrai qu'il est désormais la personnalité politique la moins appréciée des Français, avec plus de 70% d'opinions défavorables.
Non.
Ah bon, il reste encore 30% d'opinions favorables. Pourtant, il dit beaucoup de conneries. Hein.
Si c'est vous qui le dites.
Mais qu'il est con. Je lui demande de redorer mon image et il m'enfonce. Laisse tomber, Ruffin, je vais répondre moi-même. C'est quoi sa question débile à la future prix Pulitzer?
Dis donc. Là, vous voyez, par exemple, M. Mélenchon, vous n'êtes pas aimable. Non.
Mais je vous connais, vous n'êtes jamais content, les journalistes. L'autre jour, pendant un débat, j'ai écrasé le pied de Nathalie Saint-Cricq pour la faire taire. Et on a fait tout un plat, chochotte. Et Christophe Barbier, je lui ai fait bouffer son écharpe rouge en 2020. Il m'en veut encore, chochotte.
Mais écoutez, mettez-vous à la place des journalistes. Il faut bien qu'ils réagissent quand vous les attaquez, quand même.
Ouais, 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 c'est ça, vas-y. Défends tes complices. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, on m'attaque.
Il a raison, monsieur Mélenchon. Il y a un monsieur qui nous cherche partout avec sa carabine.
Ah oui, je vois. Vous voulez parler de ce youtubeur et de sa vidéo anti-gauchiste, le dénommé Papacito.
Papacito.
C'est ça. Mais il nous fait pas peur, ce Papacito. J'ai même composé une chanson.
Oui.
Papacito, 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 Lele. C'est le plus vilain des néo-fachos qu'on ait vu depuis des années. Mais qu'il est con!
C'est mignon cette chansonnette.
Ah ben c'est très bien pour l'été. Le MoDem a mis en place.
Ça c'est moins bien pour l'été.
C'est moins bien. Le MoDem a mis en place un système de détournement des fonds européens pour salarier ses employés, a conclu la police anticorruption dans un rapport qui synthétise l'affaire dans laquelle François Bayrou et plusieurs ex-eurodéputés sont mis en examen.
Hop, 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 hop.
Bonjour, bonjour François Bayrou.
Bonjour. Comme on dit chez moi dans le Béarn, il y a un os dans la garbure.
Hein?
Oui. Ou si vous préférez, il y a de la couenne dans la potée.
Oui, c'est-à-dire, comprends pas là.
C'est-à-dire que cette affaire de détournement de fonds européens pour soi-disant financer le MoDem a du mal à passer. Je ne la digère pas.
Bon, bah alors expliquez-vous alors.
Je vais tout vous dire, madame la juge.
Oui, et moi.
Je passe à table. Il y a quelques années, je voulais réunir l'ensemble des cadres et militantes de mon MoDem. Mm-hmm. Nous étions quatre pour un apéritif républicain.
Bon, tout le monde jusqu'ici, était là, alors, ouais. Rien d'anormal.
Sauf que Morissette Gouttebarge, la trésorière de mon MoDem, m'interpelle sur le fait que nous n'avons plus de chipster ou bacon dans le minibar de la salle Jean Le Canuet.
Bah, il suffisait d'aller en acheter.
Oui, c'eût été l'évidence.
Oui.
Sauf que l'Intermarché de la zone commerciale de mon grand pot était fermé. Une catastrophe.
Mm-hmm.
J'ai donc demandé à Morissette Gouttebarge, qui était au Parlement à Bruxelles, de récupérer le fond d'un bol d'apéricubes oublié par les eurodéputés anglais quand ils ont quitté l'Europe.
Oui, je comprends. Alors le problème, c'est que ces apéricubes appartenaient à l'Europe. Vous ne pouviez pas en disposer à des fins particulières.
Et ben voilà.
Je ne vais tout de même pas aller en prison pour un apéricube. Hein. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de l'apéricube. Du coup, je vous préviens, si vous m'interrogez sur la présence de champomis dans la salle Raymond Barre de mon MoDem, je garderai le silence.
Et voilà, la page du printemps se tourne et le chapitre de l'été s'ouvre. De quoi avoir envie de flâner dans les jardins. On en parle avec le jardinier de Silence ça pousse, Stéphane Marie.
Bonjour, bonjour. On commence par le dicton du jour. Si tu forniques dans les orties, te plains pas si ça pique les glaouis. Et là, car c'est derrière les renoncules que l'été,
c'est bon. Merci Stéphane Marie. Revenons plutôt au jardin, je vous prie.
Oh là là, mais quelle épée de sec. On dirait Caroline Dehas. Bientôt, elle va me coller un procès pour propos sexistes. Tiens, puisque tu fais ta bêcheuse, prends cette bêche.
Voyons Stéphane, je suppose que c'est pour bêcher.
Oh là 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 là, mais à force de regarder Audrey Fleurot, elle se prend pour une HPI. Mais enfin, Jade, réfléchis. Une bêche, c'est pour bêcher. Une binette, c'est pour biner.
Oui.
Et une pelle, c'est pour rouler.
Eh ben, si vous le dites. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait au jardin ce début d'été, Stéphane? On végétalise?
Mais non, mais non. Ah, voilà qu'elle se prend pour Anne Hidalgo maintenant. Elle veut végétaliser le goudron. On va quand même pas tout saloper pour planter des trucs qui poussent pas dans des bacs.
Oui.
En cajot, où les ivrognes vont faire pipi et les chiens vont faire caca. Oh, hein, on en a vu partout ça en ville.
Une bonne description de la ville de Paris. Oui.
Ouais, voilà, mais il n'y a pas que ça.
C'est bon, c'est sûr. Bien, merci Stéphane. Je crois qu'on a bien compris. L'été, on ne plante rien.
Ah bah maintenant, elle nous fait Audrey Pulvar qui nous coupe la parole. Ah, c'est pas possible. Mais si la Jade, en été, on plante. Et qu'est-ce qu'on plante? On plante son parasol. Alors.
À la semaine prochaine. Parlons un peu musique pour nous changer les idées. Selon nos informations, Dany Briand prépare le second volume de ses reprises des plus belles chansons de Charles Aznavour. Bonjour Dany Briand.
Bonjour, c'est Dany Briand. Vous me remettez les cheveux qui brillent à l'école avec les poils dedans. C'est moi que j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette.
Mais bien sûr, Dany, on sait qui vous êtes.
C'est aussi moi que j'ai relancé Charles Aznavour.
Ah oui.
Non, je n'ai rien oublié.
Ah, mais nous non plus, on n'a rien oublié. On n'a pas oublié votre album de reprise, Dany Briand. Vous en préparez donc un second.
Ah ouais, hein. Parce que j'ai trouvé un autre Dix d'Aznavour avec plein de nouvelles chansons anciennes que j'ai reprisées en tcha-tcha-tcha. Il y a même un Slove que j'en ai fait une nouvelle version moderne.
Ah oui.
One, two, three, four. Viens, tcha-tcha-tcha, découvrons toi et moi, tcha-tcha-tcha, les plaisirs vaccinés, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, ton cœur contre mon cœur, malgré les gestes barrières, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Je veux sentir mon col par ton cou épousé, tcha-tcha-tcha, dansons, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, masque contre masque, dansons, masque contre masque, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha.
Mais vous l'avez bien remise au goût du jour, cette chanson.
Ah ouais,
et puis, ça vous va bien, cet univers un peu nostalgique.
Ah oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore ici?
J'aurais dû m'en douter. Voilà l'inévitable sosie vocale de Johnny, Jean-Baptiste Guégan. Oui.
Pendant que j'enregistre mon nouvel album à Nashville, vous recevez encore cet impostasseneur.
Oui.
C'est Dany Briand qui tcha-tcha-tcha.
Ne soyez pas jaloux, Jean-Baptiste Guégan. Oui. On vous reçoit souvent aussi. Et je sens que vous êtes partant pour un petit duo avec Dany Briand.
Bien sûr.
Hein? Allez, en cette période d'Euro 2021, que diriez-vous d'encourager notre équipe avec l'hymne des Bleus composé par Youssoupha?
Ah ouais, je connais, hein, c'est pas difficile, hein, surtout les paroles, elle est facile.
Oui. Allez.
One, two, three, four. Écris ton nom en bleu, bleu. Écris mon nom en bleu, bleu. Tcha-tcha-tcha. Oh, Nathalie. Écris mon nom en bleu. Oh, écris mon nom en bleu, Nathalie. On est champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu, la France est debout, la France est debout. Votre passion, ouais, toujours nous rassemble. Tcha 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 tcha. Allez les bleus, on est tous avec vous.
C'était magnifique.
Les bleus ont eu peur.
Oui, un beau texte.
Ah oui, merci seulement.
Il vous reste pas un apéricube par hasard? Un apéricube du modem. Enfin,
bacon. Il nous reste un bacon.
J'aime bien jambon.
Oui, peut-être que Cyril Lignat a l'art d'accommoder l'apéricube.
Il va faire beaucoup mieux que ça parce qu'il va nous proposer une recette de pesto rosso. Il est déjà là.
Pesto rosso.
Ah, c'est hein bon ça, le pesto.
C'est oui. Bon ça. Vous êtes connaissez de vous, hein.
Demis Rosso. Il faisait du pesto aussi.
Oui, ça nous oriente vers la cuisine grecque. C'est un autre univers. Là, nous restons plutôt vers l'Italie. Je ne vais pas vous perturber. Alors, on vous retrouve sur le site rtl.fr et puis demain matin, même heure, même antenne.
Tout à fait.
Merci à toute l'équipe et à tout de suite avec Cyril.
RTL Matin, Yves Calvi.
Annie vit à Valence, elle aimerait organiser un plat d'été facile et convivial, préparé d'avance. On vous écoute, cher Cyril.
Eh bien, on va faire un petit pesto rosso. Voilà. Alors, on va prendre des tomates séchées, 125 grammes que l'on va mixer avec 20 grammes de poudre d'amande, une petite gousse d'ail, on va mettre 50 grammes de parmesan, un peu de basilic, on mixe tout ça avec de l'huile d'olive, on cuit des petites pâtes à l'avance, comme ça on se fait une petite salade de pâtes, mais on ne met pas les pâtes au frigo.
Non.
Et ensuite, on les roule dans ce petit pesto, quelques petites boules de mozzarella ou une belle burrata au milieu, un petit filet d'huile d'olive et le tour est joué, quelques légumes d'été, des petites courgettes violon. Et on se régale avec ça, c'est simple, facile, très estival et pas cher.
Merveilleux cette recette, on la retrouve sur le site rtl.fr. Merci infiniment Cyril, une fois de plus. On va tout de suite faire un point sur l'actualité avec Jérôme Florin.
Les Bleus dans le grand bain contre l'Allemagne. Ce soir, les deux derniers champions du monde, les rivaux historiques face à face, coup d'envoi 21h. Soirée spéciale dès 20h sur RTL. Et pour ceux qui suivront le match dans des bars ou chez des amis, le couvre-feu à 23h reste la règle. Mais les forces de l'ordre ont reçu des consignes de mensuétude. Il est surtout interdit de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et puis la crise sanitaire et ses conséquences économiques, la compagnie aérienne Emirates annonce à l'instant avoir perdu cette année 5,5 milliards de dollars. C'est une première pour cette compagnie en plus de 30 ans.